me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
Et ne pas faire ce métier pour l'argent. Tu gagneras de l'argent à partir du moment où tu respecteras les deux premiers points, à partir du moment où tu respecteras aussi les visions, comme il le disait tout à l'heure Farid, d'avoir un projet à long terme et tout, ça va te faire avancer. Mais si tu ne respectes pas les deux premiers points, c'est-à-dire donner de ton temps et donner de ta personne, c'est pas possible que tu puisses faire de l'argent. Et on a déjà été confronté à ça, il y en a beaucoup qui pensent que tes personal trainers, tu rentres dans une salle Basic Fit, parce que dans les salles Basic Fit, des fois, il y a 500 personnes qui rentrent dans la journée. Tu rentres dans la salle, tu as ton polo personal trainer. Les gens vont se ruer chez toi et vont te dire « Ouais, écoute, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching. » Ça marche pas comme ça. C'est comme tu le disais tout à l'heure, Andy, si tu crées pas cette relation de confiance entre la personne en face de toi et toi, ça n'ira pas, tu pourras pas signer. Personne ne va signer avec quelqu'un qui connaît pas. Tu fais le test, hein, tu vas aux Champs-Élysées, il y a des milliers de personnes et tu demandes à tout le monde s'il veut pas du coaching avec toi. Si tu arrives à trouver au moins une personne, chapeau, hein.
Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de EWAY, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès, et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer, et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter deux frères, Sid et Farid Benayad, personal trainer et head trainer à Basic Fit. Ils ont développé le réseau Safe Training. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Sid et Farid. On a parlé de leur stratégie pour manager leur équipe de coachs sportifs. Comment travailler son savoir-être quand on est coach? Le mindset à avoir pour réussir? Comment trouver des clients dans un club de fitness? Comment se lancer en tant que personal trainer? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Sid et Farid.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance justement d'être avec deux personal trainers à succès, Farid et Sid. Salut les gars.
Salut.
Alors, qui c'est qui commence par se présenter là, pour se chauffer un petit peu?
Vas-y, Sid.
Si tu veux. Donc, moi, c'est Sid. Donc, j'ai 42 ans. Je suis dans le monde du fitness maintenant depuis 2017. C'est une reconversion professionnelle. J'ai bossé beaucoup dans l'industrie. Et en 2017, j'ai commencé moi plus dans le fitness, moins dans le personal training. J'ai monté les échelons, j'ai commencé stagiaire, puis coach et enfin manager de ma salle. Et parallèlement à ça, après quelques années où Farid a exercé dans le personal training, il m'a parlé du projet de s'associer. Et en 2020, on s'est associé et on a commencé Safe Training. Donc de là, on a commencé notre ascension. Voilà,
on va revenir en détail sur tout ça. Et du coup, toi, Farid, comment tu es arrivé dans l'univers du fitness et du personal training?
Écoute, moi, j'ai été toujours baigné dans les salles de fitness depuis que j'ai 16-17 ans. J'étais accro à la salle. D'ailleurs, à Bacide, c'est là qu'on commençait à faire des entraînements ensemble. Je le poussais vers la salle et tout. Et en fait, un jour, en étant en famille, je leur ai lancé le projet parce qu'en fait, quand j'étais en salle, vu que j'aimais ça, et que j'ai cette facilité en fait à parler avec les gens. C'est ce qu'on m'a toujours dit. On me disait toujours pourquoi tu fais pas coach, pourquoi tu fais pas coach. C'est au bout d'un moment, ça a mûri. C'est devenu une évidence pour moi parce qu'on a un peu le même parcours. On a travaillé en usine, on travaillait vraiment des boulots un peu galères. Et je me suis dit pourquoi pas quoi. J'avais déjà des enfants mariés et tout. Je me suis dit ça va être compliqué de reprendre un cursus scolaire, mais je me suis lancé. C'est un sacrifice au niveau financier. Tu connais un peu le parcours, les BP et tout. Mais voilà quoi. Donc dès qu'on est rentré en formation Exceed, c'est ce que peut-être qui manquait dans la présentation. On avait l'idée en fait de faire un truc ensemble. Tu vois, notre projet, en fait, quand on s'est lancé dans le BPJEP, c'était de faire un truc ensemble. Et le parcours, il a fait que lui s'est concentré plus sur le fitness. Moi, c'était pas du tout mon délire. J'ai fait la double option, mais j'ai vu l'opportunité, en fait, directement, le gros marché. On était juste deux personnes entraîneurs dans toute la région. Donc, tu vois bien le truc. Il fallait juste ouvrir les yeux, quoi. Donc, j'ai vu le potentiel prospect. Le potentiel client, je tournais à 30-35 coachings par semaine. C'était incroyable, tu vois. Et donc, j'ai trouvé les bons arguments pour convaincre Sid de m'accompagner parce qu'il a un côté que moi, je n'ai pas. Et aujourd'hui, on arrive à être complémentaires dans tout ça, quoi.
Ouais, j'ai plein de choses, du coup, qui me viennent en tête et je vais en parler justement avec vous. Juste avant, le Sid et le Farid tout petit, c'était qui? C'était des enfants sportifs, pas sportifs, au niveau scolarité. Comment vous étiez?
Alors, toujours sportif. C'est-à-dire que personnellement, moi, j'étais en réussite dans tous les sports. Je course à pied, j'étais plus dans le football. Le foot, c'était vraiment ma passion. Vraiment, j'ai joué à un bon niveau. J'ai joué avec quelques personnes même qui sont devenues professionnelles du foot. Ouais. Et ensuite, la musculation, moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard. On va dire que je l'ai découvert vers 25 ans comme ça, quand justement je faisais avec Farid. Après, je faisais un petit peu tout seul, mais c'était cyclique. J'étais pas vraiment passionné par ça. J'aimais bien. Mais c'était pas ma plus grande passion, c'était plutôt le foot et les autres sports, quoi. Niveau scolaire, c'était moyen. J'étais pas un excellent élève. J'aimais pas trop l'école, sauf pour aller voir les potes et tout. C'était bien l'école pour ça. Mais au niveau scolaire, j'ai eu un bac pro en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, donc plus dans l'industrie. Ça s'est arrêté là. Après le bac pro, j'ai pas voulu aller plus loin. Je me suis marié très tôt, j'ai eu un enfant très tôt. Donc après, j'ai travaillé aussi très tôt, quoi.
Et pas prédisposé à créer son propre business, à être indépendant. Enfin, tout ça, c'était dans un coin de ta tête. T'as toujours, on va dire, rêvé d'être ton propre patron ou pas forcément?
Ouais, il y a trois critères qui ont toujours été dans ma vie. D'une part, leader. Deuxièmement, j'ai un mindset qui est puissant, c'est-à-dire que quand je veux quelque chose, vraiment, je vais aller le chercher et je vais me donner les moyens. Et le sport.
Okay.
Le quatrième ingrédient dont je n'ai pas parlé, c'est l'humain. Comme il le disait tout à l'heure Farid, lui aussi, il a des facilités avec les gens. Moi, j'ai des facilités aussi avec les gens. Juste pour te donner un exemple, je suis passé délégué du personnel dans l'entreprise où j'étais. C'est les gens qui m'ont poussé à le faire, tu vois, parce que j'avais ce côté sociable et je faisais le lien entre le patron et les salariés, quoi, de manière générale.
Et ça, tu l'as travaillé ou c'est quelque chose qui te semble inné?
Ouais, c'est plutôt quelque chose d'inné. En fait, moi, depuis tout petit, j'ai des facilités comme ça à me faire des amis. D'ailleurs, en plus, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Et je me retrouve pas mal dedans. Il y a des choses qui l'amènent et que moi, je fais depuis que je suis petit. Donc, ouais,
je suppose que… Parce que, alors bon, l'inné, le problème, c'est que c'est difficilement recopiable. Mais je pense qu'avec vos équipes, vous en parlez beaucoup parce que notre business, le business du coaching, c'est essentiellement un business d'humain. Et donc, je pense que ces facultés que toi et ton frère avaient, c'est des choses aussi hyper importantes à expliquer à son équipe. Comment vous l'expliquez ce côté, comment vous l'expliquez, oui, aux autres coachs, à votre équipe, le côté humain, et qu'est-ce que vous mettez en place du coup par rapport à ça?
Le côté humain, le côté leadership, de toute façon, c'est quelque chose de, c'est inné, mais c'est pas quelque chose que tu montres. C'est-à-dire, t'arrives pas, tu dis, oui, c'est moi le chef et suivez-moi. Tu vois, tu leur montres par rapport à ton parcours. Après, c'était beaucoup plus facile au début. Je te dis, je faisais 30-35 coachings des fois par semaine. Quand j'ai commencé avec les premiers personnels traîneurs, on était avec Sid et tout. Il avait aussi du coaching. C'est plus, t'as beaucoup plus de légitimité. C'est beaucoup plus facile de faire passer les choses que quand on se lisse dans le temps. Maintenant, c'est sûr, on a deux doubles casquettes. On peut pas faire les deux choses à fond. Donc, on est plus manager maintenant que personnel traîneur. Donc, les petits nouveaux, tu sais, des fois, ils regardent un peu d'eau. Oui, c'est bien. Tu nous dis d'aller prendre 20 coachings par semaine. Mais toi, t'en fais juste 3, toi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour, par rapport aux équipes, bah, qualité humaine, on est à fond. On a mis en place, par exemple, un truc. Chaque semaine, on a un briefing dans chaque salle. Tu vois? Mm-hmm. Je sais que ça ne se fait pas dans, chez les confrères, mais nous, c'est chaque semaine. Des fois, il y a des collègues entraîneurs qui nous disent, par exemple, ouais, moi, j'ai gardé ce côté humain, je vois mes équipes une fois par mois. Mais non, nous, on s'est imposé. On a même une to-do list avec un petit tableau pour être sûr qu'on va zapper personne dans. Ouais, on allait très loin dans le truc. Mais c'est super important parce que au bout d'un moment, en fait, sans t'en rendre compte, bah, tu vas zapper une personne une semaine, deux semaines, trois semaines, tu vois. Et on a besoin de ce côté humain. Moi, j'étais coach. J'avais un trainer au tout début quand j'ai commencé. Il était absent alors qu'il habitait à 200 mètres. De la salle, et ça me faisait mal de lui donner un loyer alors que je le voyais jamais, tu vois.
Et ça se matérialise comment, ces briefs? C'est des briefs en one-one ou c'est des briefs de groupe à un certain moment? Comment vous faites ça?
Ben, ça dépend, en fait. Si la plupart du temps, en fait, c'est des briefs de groupe, des briefs de salle, si tu veux. Donc des briefs de salle, parfois on balance un sujet, parfois on demande au coach de réfléchir à un sujet. Et en fait, on se réunit, on discute de ce sujet, ce qui crée aussi un petit peu cet esprit d'équipe, tu vois. Mm-hmm. Et ça permet également, si je suis à l'aise sur le mindset, je vais parler du mindset, bah, peut-être que quelqu'un n'avait pas vu les choses sous cet angle, et on va apprendre comme ça, en fait, chacun des autres. Et le one-to-one, il vient plus quand soit nous, on constate une problématique avec le coach, peut-être un petit peu un coup de mou, ou bien, tu vois, ou bien un coup de frein au niveau de la clientèle. Le personal training, c'est ça qui est cruel, c'est que d'une semaine à l'autre, on peut perdre peut-être des clients, tu vois, et mm-hmm. on ne sait pas comment ça s'est arrivé. Et si tu es un petit peu faible mentalement, ben, si tu as personne pour t'épauler, t'aider à te relever, ce n'est pas donné à tout le monde de se relever tout seul, hein. Donc là, on fait plus du one-to-one, on prend le temps et on va voir nos équipes. Là-dessus, on est très réactif. Parce que, comme il l'a dit Farid, on reste beaucoup dans l'humain. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tout ce qu'on a prévu, on le met sur le côté et on va régler le problème avec le coach. Les coachs restent toujours notre priorité. Et toujours, dans la mesure du possible, on se déplace et on le règle en physique.
Mmh. On essaye aussi de les valoriser. Donc, lors de ces réunions, ce n'est pas seulement nous qui arrivons avec un thème comme ça se fait dans la plupart des briefings où c'est le chef qui va venir, il donne un thème, il a un cadre et tout. Nous, on va faire une préparation en sollicitant l'un ou l'autre. S'il a un sujet de prédilection et qu'il veut l'exposer et le partager, ou bien une difficulté sur un sujet quel qu'il soit, ben on le laisse lancer le sujet et ça va être un petit débat entre nous, quoi, pour en sortir grandi, quoi.
Excellent, excellent. On va revenir sur tout ça parce qu'effectivement, on a sauté des étapes et on n'a pas expliqué à ceux qui écoutent que maintenant vous avez une équipe, un basic fit et tout. Toi, Farid, du coup, par rapport à ta jeunesse, la partie sportive, la partie entrepreneuriale, comment tu t'es construit, toi, en tant qu'homme?
Ben moi, j'ai pas eu le même parcours sportif que Sid, malheureusement. Donc lui, il a joué dans des très bons clubs. Après, j'ai réussi à le rejoindre une fois, on avait joué ensemble à un niveau assez bon quand même, tu vois, mais j'ai pas été dans l'excellence régionale comme Sid a pu l'être. Je me suis marié encore plus jeune que lui, tu vois. Donc,
vous moi, êtes marié à quel âge?
Moi, je crois que j'avais 20 ans quand je me suis okay. marié, et j'ai eu mon premier gamin à 21 ans.
Excellent, ok.
C'est 21-22, hein.
Et mon cursus scolaire, entre nous, il était catastrophique. Donc, je pense que j'aurais pu être un très bon élève parce que j'adore ça. Surtout après, quand j'ai repris, j'ai fait plein de formations et tout. J'ai aimé ça. Mais j'ai été très influençable, en fait, dans ma jeunesse, moi. Même maintenant, quand je revois des personnes qui m'ont côtoyé il y a 10-15 ans, ben, ils me reconnaissent plus parce que j'étais pas comme ça. J'étais là à faire rire la galerie. Voilà, j'étais un timide, tu vois, mais qui veut s'affirmer parce que justement, j'étais timide, tu vois. C'était pour attirer l'attention.
Oui, et puis après, le cursus scolaire n'était peut-être pas, ne t'intéressait pas non plus. Hein. Tu sais, il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont un fort potentiel, mais le cursus classique de ce qu'on nous enseigne, souvent, ce n'est pas forcément super réjouissant et motivant pour chacun d'entre nous.
C'est même pas ça. Hein. Moi, j'allais, des fois, je me rappelle de ma période de lycée, je faisais un BEP, et j'allais des fois avec une feuille, un stylo en cours, hein, donc j'avais même pas mes affaires scolaires, tu vois, c'était du haut level, quoi, tu vois.
Ok. Et quel a été les gars, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, est-ce que c'est vos enfants, la famille, le mariage, est-ce qu'il y a eu ce déclic de passer effectivement de salarié à se lancer, tu disais le Farid tout à l'heure, tu as pris des risques parce que l'investissement, reprendre une nouvelle formation, enfin ça a été quoi le déclic?
Tout est régi par le déterminisme, donc ce qu'on a vécu dans notre existence et tout, et t'en parlais avant, nous on est issus d'une famille ouvrière, on était très modeste, on a eu tout ce qu'on voulait, mais on est issus d'une famille très modeste. Et je pense que ça, c'est aussi une des choses qui nous donne encore plus faim que d'autres personnes. Tu vois, c'est pas qu'une personne qui a pas trop galéré, qui est pas issue d'une famille modeste, qui va pas avoir cet aimant puissant. Mais je pense que c'est aussi une très grosse force qu'on a. Et on aurait pu aller justement vers ce cheminement parce que nous, on a des parents qui, même aujourd'hui, hein, ils comprennent pas l'optique, tu sais, de créer une société, de pas forcément gagner des sous pendant 2-3 ans. De chercher à croître, tu vois, ils sont plus dans le truc où tu vas chercher un boulot bien rémunéré, t'as des horaires fixes, tu vois, et nous on est anti ça, en fait. On a réussi à sortir de cette bulle qu'on nous a ancrée depuis notre plus jeune âge, quoi.
Mais c'est compliqué ça, parce que moi, pour en discuter avec certains profils de personnes qui pourraient être des très bons personnel trainers, sortir du cadre, parce que aujourd'hui c'est ce cadre-là, hein, qu'on nous impose, on va dire, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement peut-être à des personnes qui se freinent intérieurement pour se lancer, quoi?
Ben en fait il y a pas en fait la plupart le problème la problématique qu'on rencontre souvent, c'est on attend le bon moment pour se lancer. Mais le bon moment n'arrivera jamais seul. C'est nous qui le créons, le bon moment. Je te donne un exemple personnel. Moi, quand j'ai commencé la formation du BPJEPS, je divorçais. Donc, j'avais plus de logement. Mon emploi, je gagnais 1180 euros par mois. Donc, pour avoir un logement social, je ne gagnais pas assez. Pour aller chez un particulier, je ne gagnais pas assez. Donc, je vivais chez mon frère jusqu'à que ma copine à l'époque s'est portée garante pour moi, et j'ai réussi à avoir un appartement comme ça. Mais ça, c'était pendant le BPJEPS. Alors, est-ce que c'était le bon moment? Si tu prends, tu analyses le truc, non, c'est certainement pas le bon moment. Tu vois, j'avais deux enfants, le petit, il avait 6 ans. C'est pas le bon moment pour se lancer dans un BPJEPS, tu vois.
Pourtant, alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? Parce que moi, ce qui me fascine dans l'être humain, et pour discuter avec plein de personnes, 95% des gens resteraient entre guillemets dans leur vie, quoi. Et il n'y a qu'une fraction, qu'un pourcentage de ces personnes-là qui osent effectivement. Parce que là, tu me décris le truc, je me dis waouh, c'est, tu vois, je me mets à ta place, je me dis est-ce que je l'aurais fait, tu vois, je sais pas. Donc c'est ça en fait que je trouve fantastique, moi.
Mais l'action, en fait, tu vois, toutes les réussites sont régies par des échecs. Mais si tu n'essayes pas, tu ne seras ni en réussite ni en échec. J'écoutais un truc aujourd'hui qui est très pertinent. C'était une intervention dans un podcast où l'intervenant disait que tu y ailles ou que tu n'y ailles pas, le temps passe. Donc, autant y aller parce que le temps, il passe. Si tu y vas, tu seras peut-être en échec. Je te prends l'exemple j'ai des collègues qui sont restés en cours à l'usine là où je travaillais à l'époque, et qui voulait aussi faire une formation. Donc moi, je suis passé à l'action, j'ai fait ma formation, je suis en réussite. J'ai rencontré certains et je leur ai dit, c'est la meilleure décision de toute ma vie. C'est vraiment énorme, c'est vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Et je lui dis, et toi ? Il me dit, ouais, moi, je réfléchis encore. Ah ouais, tu vois, le problème, il
mais
est
c'est
là.
Parce que...
C'est qu'il y en a, ils ne franchissent pas le pas entre le moment de la réflexion et l'action. Et à force de trop réfléchir, en fait, tu vas, parce que tu vis dans un confort. Si tu as assez d'argent pour manger, si tu as assez d'argent pour boire, si tu as assez d'argent pour acheter ta maison, tu es dans un certain confort. Alors, tu te dis, je vais me priver de tout ce confort, peut-être. Tu mets des hypothèses, mais tu n'es pas épanoui dans ton boulot. Ça veut dire que tu vas continuer à ne pas être épanoui le restant de ta vie si tu ne passes pas à l'action. Donc, au bout d'un moment, fais un choix. Est-ce que je veux être heureux, épanoui à 100% ou est-ce que l'épanouissement de ma vie, je l'aurai à 50%, tu vois ?
Mais en fait, ça ne suffit pas.
Oui. Vas-y,
excuse-moi, Andy, juste pour compléter, en fait, ça ne suffit pas. C'est bien, ça c'est les moyens. Et en fait, ils n'arrivent pas. Nous, quand on l'explique, ça nous paraît évident parce qu'on sait où on veut aller. C'est ça qui fait la différence. Quel résultat tu veux obtenir ? En fait, la plupart des gens, ils veulent faire des choses, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. C'est comme ça peut être financier, ça peut être les moyens que tu vas mettre en place. Le BPGEPS, c'était une étape pour arriver quelque part. Tu vois, aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire, c'est pour arriver quelque part. On a encore des plans. C'est comme l'effet, tu sais, de gagner 3000 euros par mois ou 5000 euros par mois quand on vient, on engage des nouveaux coachs. Mais moi, je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que tu feras avec ? Normalement, tu dois déjà anticiper. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 3000, 5000 euros. Et c'est ça, un entrepreneur. Donc, c'est une question de mentalité et une question de résultats. Il y en a beaucoup, ils ne savent même pas c'est quoi un objectif à court terme, moyen terme, long terme. Ils ne savent pas le définir. Et ils veulent l'imposer à des clients. Tu vois. Donc, je pense que c'est ces deux choses-là.
Oui, et pour rebondir avec tout ce que vous avez dit, c'est que même des coachs aujourd'hui qui sont indépendants ont ces barrières mentales qui leur empêchent en fait d'aller plus loin. Ils se confortent sur le fait que bon, ils gagnent 1500, 2000 euros avec leur business. Mais en fait, ils ne voient pas tout ce que ça engage parce que 1500, 2000 euros quand tu es indépendant, si tu veux véritablement construire quelque chose, ne serait-ce que tu vois, acheter ta résidence principale, réfléchir aussi parce que la retraite, c'est aussi un sujet. Alors quand tu es jeune, tu n'y penses pas, tu dis ouais. Quel con, lui, à 40 ans, là, de me parler de retraite. Oui, mais ça va arriver à un moment donné. Et en fait, les coachs ou les indépendants de manière générale ne se préparent pas à tout ça. Et c'est pendant que tu es indépendant, que tu as de l'énergie et tout, où il faut capitaliser et amasser de l'argent pour pouvoir être tranquille plus tard. Et ça, beaucoup de coachs aussi ont du mal à le matérialiser, à le concevoir, quoi. Donc, je pense que c'était aussi important. C'est important aussi de leur partager tout ça. Et le BPGEPS, pour vous, ça a été bien, ça a été voilà. Quels sont vos retours par rapport à ça ?
Ben
de
nous,
manière
on a...
très transparente.
Ouais. Alors, je vais parler pour moi personnellement, hein. Mais moi, ça a été vraiment une très belle année. Pendant ces 10 mois, j'ai appris vraiment beaucoup. Pour te dire, même les directeurs de l'école qui est l'académie Formez-moi à Mulhouse. Ben, c'est devenu nos amis. C'est des amis aujourd'hui. On les voit souvent. Ils font appel à nous. Je te le disais avant qu'on commence en tant que juré, tu vois, évaluateur. C'est pour nous, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est la meilleure décision de ma vie, ce BP. C'est vraiment un tournant. Et tu vois, pourtant, j'avais 35 ans et la situation, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ça a été le tournant de ma vie. Et ça a été une des plus belles années de toute ma vie, malgré tout.
Bon, il dit ça, mais c'était quand même un peu galère quand on était dedans, quoi. Parce qu'après, on dit toujours ça. C'était bien et tout. Mais quand on était dedans, je peux dire… en plus, nous, on a fait les doubles mentions. Nous, maintenant, actuellement, par exemple, on a 10 stagiaires. Et je ne te dis pas comme c'est marrant, ils ne font que le cursus musculation. Genre ils ont 10 heures en salle, nous on faisait des 20 heures en salle, on avait la double mention à faire, on était au bout de notre vie. Quand on faisait les examens, je me rappelle, ben, on s'envoyait des messages sur les groupes et tout, on était jusqu'à 3-4 heures du matin, alors que le lendemain à 8 heures on avait examen, parce qu'on était, Sid il était meilleur que moi, mais moi j'étais une quiche en fitness, la musique je ne l'ai jamais eue, d'ailleurs je ne l'ai même pas aujourd'hui, j'ai fait le truc par cœur, tu vois, mais on était vraiment… focus sur notre truc, peu importe la fatigue et tout, on est allé au-delà, tu vois, on a eu des contractures, on a eu plein de, même des blessures et tout, mais c'était hors de question de zapper cette étape qui était primordiale pour la suite, quoi. Mais on a galéré, on a quand même galéré énormément.
Si tu veux, c'était le stress aussi parce que, tu sais, tu sors du cursus scolaire pendant plus de 15 ans et d'un coup, tu retournes à l'école. Et on te dit, il faut faire des dossiers, il faut faire ci, il faut aller à l'école de telle à telle heure. Ouais, moi, je suis passé à l'actif, quoi. Je suis plus dans le monde scolaire, quoi. C'est, tu vois, tout ça, il faut l'accepter.
Vous aviez une famille, en plus.
Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, donc, tout ça, il faut l'accepter et tout. Et comme il disait, sur les dossiers, ben, moi, personnellement, j'avais pris du retard sur les dossiers parce que ça m'embêtait un petit peu, tu vois, faire les dossiers. Et je galérais aussi un petit peu en fitness. Donc, il fallait se donner encore plus les moyens parce que, en fait, on refusait l'échec. Pour moi, ce n'était pas concevable que je fasse les 10 mois de formation et qu'à la fin, je n'ai pas mon diplôme. Donc, s'il fallait dormir juste 2 heures dans la nuit, je dormais 2 heures dans la nuit, mais il fallait que je termine ce que j'ai à faire. Je ne me plaignais pas. Je te promets, pendant 10 mois, personne ne savait que j'étais en plein divorce, que je galérais au niveau du logement et ainsi de suite. Je ne me plaignais jamais. J'étais à fond dans ce que je voulais faire. Je savais où je voulais aller. Et on s'est donné les moyens aussi d'y arriver, quoi.
Ça nous a apporté énormément.
Et c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure année de ma vie parce que, tu vois, autant c'est difficile, mais dans la difficulté, tu apprends des choses aussi positives. Tu vois, tu en apprends plus sur toi-même. Tu vois aussi tes limites. Tu vois aussi tes capacités. Tu vois, tu as des capacités qui se réveillent, tu vois, qui se révèlent. Et à la fin aussi, ben, quand tu as fini les 10 mois et que tu as connu tout ça, que tu regardes un petit peu dans le rétro, tu regardes toutes tes galères et qu'à la fin, on te dit « écoute, c'est bon, t'es diplômé », waouh, tu te dis « c'est magnifique ». Et moi, en plus, j'ai eu de la chance parce que le patron de ma salle, là où j'étais stagiaire, m'a directement pris, m'a embauché directement. Ça veut dire que j'ai fait une rupture conventionnelle parce que moi, j'ai eu un cursus. J'étais encore embauché à l'usine où j'étais, tu vois. Et j'ai même dû aller travailler un mois avant que la rupture conventionnelle soit établie. Donc, je travaillais un mois à l'usine et en même temps, je travaillais à la salle, tu vois. Donc, mais c'était une satisfaction énorme. C'était un changement dans ma vie et c'était en fait le début d'une nouvelle vie, tu vois. Et c'est pour ça que je m'étais engagé dans le BPJEPS. C'est pour ça que je te disais, c'est la meilleure année de ma vie parce que c'est l'année du changement, en fait.
Cette histoire, vous la racontez à vos stagiaires, j'espère, pour leur faire comprendre que rien n'est indu et qu'il faut bosser pour arriver à atteindre ses rêves, quoi.
Tu sais, c'est comme les enfants, quand tu leur dis « ouais, avant, on jouait, on ne regardait pas la télé, il n'y avait pas les jeux vidéo et tout, on jouait dehors toute la journée. » Ils ont du mal à croire, ils se disent « attends, tu avais une vie de merde avant. »
Ah, vous leur ferez écouter le podcast, j'espère.
Ah ben, ils le savent déjà, hein. Mardi, on leur a déjà parlé.
Ok, top. Et alors, ces premières expériences, parce que le plus difficile, alors même si effectivement c'est la formation, c'est une, il y a pas mal de choses et puis on vous l'avez partagé, mais le plus difficile, c'est pas d'avoir son diplôme, c'est d'avoir de commencer à générer ses premiers clients. Comment ça s'est passé pour vous les six premiers mois à un an de coaching?
Ben bien.
Parce que toi, ça...
mon premier mois, c'était en fait dans la continuité. Je suis resté dans la salle de fitness où j'étais. Mm-hmm. Donc, j'ai continué avec eux, mais ça a duré un mois en tant que coach fitness, quoi. Parce que je me suis lassé au bout d'un mois. J'avais fait le tour du truc, quoi. C'était pas fait pour moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé en tant que coach indépendant chez Basic Fit. Ça s'est fait en fait. C'était un truc, je savais même pas qu'ils recrutaient chez Basic Fit. J'ai croisé un ami à moi que je croisais en salle de sport. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas croisé. C'est au moins presque 10 ans, quoi. Et il me dit, écoute, chez Basic Fit, ils recrutent des coachs. Je lui dis, ah bon? Et moi, en fait, je postule chez Basic Fit en pensant que je postule pour du fitness, tu vois, avec des cours collectifs, pareil qu'à 54 PM. Je me suis dit, bon, j'arrête chez eux. Peut-être que je suis lassé chez eux et peut-être que je vais aller chez Basic Fit. Peut-être que c'est mieux, quoi. Et quand je vais sur place, je rencontre un e-trainer. Tu vois, et qui me parle du projet, je connaissais pas du tout le système e-trainer coach et tout. Je lui ai dit, écoute, je signe où, tu vois. Et en plus, j'arrive dans une petite salle, la salle de Colmar, voilà. Je vois l'infrastructure, ça m'a pas du tout fait peur. Hein. Il venait de finir un entretien, je ne sais pas si c'était fait exprès, c'est l'aspect psychologique, il finissait l'entretien avec quelqu'un au moment où je suis arrivé, et il y avait une autre personne qui arrivait derrière moi, tu vois.
Okay.
Donc je me suis dépêché de lui dire c'est bon, et finalement ben, l'effet psychologique il a joué sur les deux autres personnes parce que je suis le seul qui s'est engagé.
Ok.
Donc j'ai commencé avec il y avait un autre collègue, il y avait Gino déjà sur place, et voilà, écoute, au début, c'était un peu galère. Pourquoi ? Parce que moi, je suis arrivé dans une salle avec un e-trainer. Je te cache pas, il m'a donné du contenu, tu sais, des vidéos, des PDF et tout. Je pensais avoir eu une formation, mais sincèrement, je n'ai pas forcément utilisé tout ce qu'il m'a donné parce que je ne me retrouvais pas à travers ce qu'on m'a appris. Tu vois, humainement, en fait, ça ne me correspondait pas. En fait, c'était, tu sais, plus une démarche commerciale, aller chez les gens, vraiment et faire le forcing un peu entre guillemets sur chaque personne et tout, et moi ça m'intéressait pas. Dès le début je voyais le truc en fait où je vais me créer une communauté tranquillement, comme toi tu te fais un ami avec le fameux livre de Dale Carnegie quoi. Donc tu y vas, tu apprends des prénoms, tu commences à apprendre les gens petit à petit, et petit à petit les gens ils commencent à revenir vers toi, te demander des conseils, et donc on faisait des briefings chaque mois. Le premier mois j'avais pas de clients. Je m'étais fixé 2 clients par mois. C'était pas énorme, hein, parce que j'avais un progressif aussi sur mon loyer. Et écoute, au bout de 2e mois, je commençais à avoir 4, 8, 12 clients. Et mon collègue, en fait, qui était avec moi, c'était un forceur, du coup, il suivait l'autre méthode. Et pendant les briefings, il me lançait des pics, les deux, quoi. Il me disait, tu devrais changer de méthode, comme ça, tu augmentes plus vite. Et moi, je leur disais non, parce que je ne me retrouve pas. Et quand je passais même derrière eux, les gens ils me disaient, écoute, j'ai déjà vu ton collègue, tu vois, ça fait que le gars il est venu vendre un truc, et moi j'ai jamais vendu quelque chose. J'allais je proposais une solution par rapport à une problématique dès le début, tu vois, parce que moi je me mets toujours à la place des gens. Est-ce que moi je supporterais une personne qui vient à chaque fois et il me dit oui, si t'as besoin de mes services, je peux t'accompagner, je sais pas quoi, c'est saoulant, tu vois, pendant l'entraînement. Donc, écoute, hein, très vite, au bout de 6-7 mois, j'avais plus d'une dizaine de coachings.
Est-ce que tu as douté de toi au début, du coup ?
J'ai douté, en fait, quand tu commences au début, tu ne doutes pas parce que tu payes rien, tu vois. Mais vu que ça croît tous les mois, le loyer, tu commences à flipper au bout d'un moment. Parce que quand tu te dis, oui, je vais sortir plus que ce que je rentre, ça fait un peu mal, tu vois. Mais une fois que j'ai bien compris le truc, je me suis dit, ça peut que marcher. Pourquoi ? Parce que très vite, j'ai vu le potentiel. Tu rentres dans une salle, j'étais posé des fois 12-14 heures dans la salle et je voyais le flux de personnes rentrer et sortir. Je commençais à avoir des fichiers prospects, même si je n'avais pas signé les gens, mais je travaillais avec mes fichiers prospects. Moi, dès le début, je me suis organisé, c'est-à-dire prospect froid, moi, il ne reste pas froid. Je me disais déjà que j'allais travailler, les rappeler, tu vois, prendre des nouvelles, les recroiser dans la salle, et je me rendais compte que ça fonctionnait. Tu sais, parce qu'après, le froid, il commence à être tiède parce qu'il commence à te poser des questions, tu vois, et je commençais à analyser la chose. Donc, je me disais, ça ne peut que marcher. Je faisais mes calculs, je me disais 15-20 clients, je vais être pas mal, et j'avais une centaine de personnes sur les fichiers. Je me disais, en fait, je m'auto-flagellais, je me disais, t'es vraiment teubé si t'arrives pas à signer 15 personnes sur 100 personnes, quoi.
C'est important ce que tu dis, et je pense qu'on l'oublie aussi parce que aujourd'hui les coachs ils veulent avoir un contact et 2 jours après ils veulent avoir un accompagnement d'un an. Alors ça nous est arrivé, ça arrivera peut-être, mais ça c'est vraiment un pourcentage infime. Et c'est clair que moi ce que j'explique, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est simplement du business et du marketing, c'est que avant que la personne elle te donne sa carte bleue, un, déjà elle doit apprendre à te connaître, deux, elle doit à t'apprécier, et c'est pas suffisant. La chose la plus importante, c'est elle doit avoir confiance en toi, parce que jamais elle mettra 200, 250, 500 euros par mois à une personne qu'elle déteste ou elle a pas du tout confiance. Donc à partir de là, effectivement, ce que dit Farid, c'est la stratégie des petits pas. Oui, certes, ça met du temps de créer une relation. C'est un peu comme avec quelqu'un que tu rencontres dans la vie. Tu ne vas pas lui demander du jour au lendemain de te marier avec.
Pour les gars, on prend exactement le même truc. Hein. On lui dit, quand tu arrives dans une boîte ou peu importe, tu croises une fille, tu la regardes dans les yeux, tu ne vas pas aller directement chez elle, tu vas lui dire, viens, on passe la soirée ensemble, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe, il y a des étapes. Par contre, nous, on n'utilise pas les pas, on utilise les graines. On parle de graines. On se prend pour des jardiniers chez nous, tu vois. On dit, tu vas semer plein de graines. Et il y en a, en fait, c'est comme dans les films, tu vois, ils vont prendre tout de suite, tu vas récolter les fruits. Et il y en a, en fait, tu devras semer des fois, même pendant, ça arrive. Parce que j'ai déjà eu des clients, au bout de 2 ans, le gars, je suis en séance, à la fin de ma séance, c'est le gars, j'ai dit bonjour tous les jours. Hein. Il m'a, limite, il me calculait pas, Sid, il le connaît. Un gars genre hyper froid, hyper fermé et tout, à peine il te dit bonjour. Et du jour au lendemain, au bout de 2 ans, il me dit « Ouais, on peut se voir à la fin ». Je lui dis « Tu sais, limite, tu te dis, il veut parler de quoi, lui ?» Et il me dit « Écoute, j'ai besoin d'un accompagnement ». Alors que le gars, il était déjà bien en chair, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et je me dis « Punaise, c'est hyper satisfaisant les choses comme ça, tu vois. » En fait, t'apprécies encore plus quand tu fais ce travail comme ça. Et ça te permet aussi de pérenniser parce que du coup, tu ne dégrades pas ton image. Parce que pour moi, si on fait trop les commerciaux et si on a, ne serait-ce, je dirais même plus, s'il y en a un sur 5 ou 10 dans la salle qui fait le commercial, ça va nuire à l'image de tout le monde. C'est comme si tu brûlais la forêt, quoi. Mm-hmm.
Mais tu sais, toi aussi, du coup, ton expérience par rapport à ça?
Moi, le coaching, c'est venu beaucoup plus tard par rapport à mon BP. Je t'ai dit, j'ai commencé moi en tant que coach dans ma salle de fitness. Et en plus, le jour où, enfin, quand on a monté le projet Surf Training, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, j'étais à 35 heures hein, dans ma salle, et je lui ai dit, écoute, Jean-François, voilà, je viens de voir parce qu'avec mon frère, je monte ma boîte et j'aimerais diminuer mon nombre d'heures et me consacrer à mon entreprise. Et si ça prend, ben, je pense que j'arrêterai définitivement. Je pense dans quelques mois, j'arrêterai définitivement. Et il m'a dit, ben, écoute, moi, j'ai un autre projet pour toi. J'ai pensé à te mettre manager. Donc, après réflexion avec mon frère, je suis resté un petit peu manager. Et quand même, parallèlement à ça, j'ai voulu, parce que je ne me voyais pas monter une boîte où on allait accompagner les gens et pas faire de personal training. Alors, j'en avais déjà fait, mais pas système Basic Fit, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aller à la salle et je vais essayer. Je suis allé et en fait, j'ai réussi à signer comme ça des clients. Premier client qui arrive, c'était une dame, je m'en rappelle. Elle est arrivée et je la signe 2 séances par semaine. Je me suis dit, alors tu sais, tu essaies de te contenir, mais 2 séances par semaine, c'est un bon truc, tu vois. Plus de 400 balles, tu vois, j'avais le sourire et tout. J'étais trop content, je suis allé derrière, j'ai fait un câlin à mon frère, tu vois, et tout. Et on était au début de nos process, tu vois. Tous, en fait, toute l'expérience que surtout Farid a eue, toute l'expérience qu'il a eue, on s'est dit, nous, il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. Donc, si tu veux, nous, on a fait des process pour éviter tout ça. C'est-à-dire que on part dans l'idée de se dire que pour bien vendre, il ne faut pas vendre. Il faut laisser les gens venir acheter. Je prends l'exemple d'un vendeur de voiture. Jamais un vendeur de voiture s'est déplacé chez toi, il est venu, il t'a dit « Écoutez, j'ai une Peugeot à vendre. » Mais toi, si tu vas au garage et que tu demandes, tu dis « Ouais, je suis venu me renseigner », ça veut dire que toi, tu as déjà eu une réflexion sur la voiture, tu sais déjà le modèle, tu sais déjà, forcément, tu t'es renseigné sur le tarif et tout. Quand tu vas au garage, tu es un prospect chaud, c'est sûr. Le vendeur, s'il ne te signe pas, c'est limite une faute professionnelle, tu vois. Et nous, on est parti dans cette idée-là de former nos coachs pour leur dire donnez beaucoup et ensuite, vous n'avez pas besoin de recevoir. Parce qu'une salle Basic Fit, on travaille uniquement avec les Basic Fit, il y a 3 000, 5 000 abonnés des fois dans les salles. Le maximum qu'on a eu dans une salle, c'est 6 coachs. 6 coachs, si les 5 000 personnes venaient demander aux 6 coachs du coaching, ben c'est impossible, ils ne peuvent pas. Donc, il y aura un faible pourcentage. Par contre, l'écosystème qu'ils vont créer en allant voir les gens, en montrant justement que les coachs sont présents pour les gens sans rien attendre en retour, bah, va faire que tu vas qualifier des prospects.
Donc, sur 5 000, ça fait 250 personnes qui sont potentiellement intéressées, on va dire, par du one-to-one. Donc, ça va. Il y a des possibilités.
Ouais, après, les nuits vont être très courtes du coup. Hein.
C'est ça.
donc, voilà. Mais après, le potentiel, il existe. Et j'ai eu de la chance, moi, c'est que j'ai connu la réussite dans le personal training. Aujourd'hui, je ne coach pas beaucoup. J'ai 2 personnes en coaching. Ça représente 7 séances de coaching. J'ai une personne qui me prend 4 séances de coaching par semaine. Donc, c'est énorme, tu vois. C'est vraiment beaucoup. Et 2 personnes m'en prend 3 par semaine. Donc, je n'ai pas besoin de plus que ça. Et j'arrive à fidéliser. Parce que ça, on en parle peu. On parle beaucoup de signatures et de choses comme ça. Mais pour nous, le principal, c'est de fidéliser les gens. Les coachs qui signent sur ces 2 mois et après, ils doivent renouveler, c'est limite, tu vois, c'est prendre les gens un peu pour du bétail, tu vois. Pour moi, ce n'est pas concevable dans notre métier. Tu vois, je veux perdre 10 kilos, je te dis, OK, on signe sur 2 mois et après, on verra. Ce n'est pas cohérent avec normalement ce que tu fais. Mm-hmm. 10 kilos en 2 mois, tu ne peux pas. Tu n'es pas magicien, quoi. C'est pas sain. Donc, c'est pour ça que nous, on vraiment mise sur du suivi de qualité et surtout de la fidélisation. Après, voilà, si la personne est malade, doit se faire opérer, ou bien quoi, c'est des autres cas, tu vois. Mais théoriquement, tu dois pouvoir suivre une personne pendant 6 mois, 1 an, et après renouveler seulement ta clientèle, tu vois. En dessous de ça, c'est que tu dois louper des choses, c'est que tu n'es pas assez proche peut-être de ton client, tu vois. Peut-être que tu ne fais pas assez bien les choses. Et si ça arrive, la première chose à faire, pour nous, à notre sens, c'est d'abord la remise en question. Mmh. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour mieux fidéliser ? Peut-être même avoir un échange avec son client, même s'il quitte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de lien avec lui. Hein. Ça nous permet de grandir. Cette démarche-là, elle est compliquée parce que beaucoup, beaucoup de coachs, en fait, on a de l'ego. Tu vois ? Donc, si le client n'y arrive pas, ce n'est pas mon programme, ça n'a rien à voir avec moi. C'est soit c'est le client et il ne veut pas, il ne met pas assez de volonté, alors que s'il vient 5 fois à la salle, c'est qu'il a de la volonté. C'est juste peut-être nous, on n'exploite pas assez bien la volonté du client.
Là, aujourd'hui, je viens d'être diplômé, je veux travailler dans un fitness, je veux être dans un club et je veux faire du personal training. Qu'est-ce que vous me diriez ?
Bienvenue chez Saft Training, viens chez Saft Training.
Yes, et du coup, quels sont les 3-4 points importants pour vous quand une personne rejoint votre équipe? Qu'est-ce que vous lui dites?
Bah déjà qu'elle a un plan A et pas de plan B. Super important. Parce qu'on s'y perd souvent quand ils sortent de BPGEPS ou d'ACQP, ils veulent faire quelques heures en fitness pour avoir cette sécurité et commencer tranquillement du personal training. Alors que justement, bah, ce qu'on prône, c'est de faire du personal training parce qu'au début, hein, bah, tu dois faire beaucoup de présentiel. Là, les salles Basic Fit, elles sont ouvertes 4 à 16 heures par semaine. Tu ne peux pas toucher tout le monde, mais si tu viens genre 10 ou 15 heures et en plus que tu les places mal, tu ne vas pas te donner beaucoup de visibilité. Du coup, hein, bah, tu ne pourras pas avoir de prospects. Si tu n'as pas de prospects, hein, bah, tu n'auras pas de clients, quoi. Donc déjà, c'est la première des choses. On leur demande aussi c'est quoi leur objectif de vie. Où ils se voient dans 3 ans, où ils se voient dans 5 ans. C'est super important pour nous parce qu'on va préférer travailler avec quelqu'un qui a une vraie vision plutôt que quelqu'un qui veut juste tester, quoi. Oui. Voilà. Et après aussi, on va demander quelles sont ses qualités parce qu'aujourd'hui, bon, on grandit et on aime bien l'esprit de cerveau collectif, tu vois. On sait qu'on n'a pas les compétences sur plein de choses et on va préférer s'entourer de coachs qui peuvent nous ramener des compétences qu'on pourra exploiter au sein de l'entreprise plutôt qu'une personne lambda, quoi. Mmh.
Après, au-delà de ça, ce qu'on demande vraiment en salle, c'est vraiment pour l'aspect salle, c'est fais des heures sans les compter. C'est important. Si tu prétends vouloir gagner 3 000 ou 4 000 euros, je ne connais pas de métier vraiment que tout le monde puisse faire. On laisse les footballeurs de côté, que tout le monde puisse faire où tu gagnes 3 ou 4 000 euros en restant allongé sur ton canapé toute la journée. Ça n'existe pas. Il faut te donner les moyens de pouvoir de tes ambitions, quoi. Ensuite, ce qu'on leur demande aussi, c'est beaucoup donner, mais sans attendre quelque chose en retour. Parce que si tu fais ça, tu verras que les gens vont le percevoir, en fait. Ils vont le sentir et ils reviendront naturellement vers toi. Et vraiment, hein, tu vois, aujourd'hui, on reçoit encore des demandes de coaching parce qu'il y a ce côté-là qui est humain, tu vois. Sans ça, tu ne peux pas réussir. Et ne pas faire ce métier pour l'argent. Tu gagneras de l'argent à partir du moment où tu respecteras les 2 premiers points. À partir du moment où tu respecteras aussi les visions, comme il le disait tout à l'heure Farid, d'avoir un projet à long terme et tout, ça va te faire avancer. Mais si tu ne respectes pas les deux premiers points, c'est-à-dire donner de ton temps et donner de ta personne, c'est pas possible que tu puisses faire de l'argent. Et on a déjà été confronté à ça. Il y en a beaucoup qui pensent que t'es personal trainer, tu rentres dans une salle Basic Fit, parce que dans les salles Basic Fit, des fois, il y a 500 personnes qui rentrent dans la journée. Tu rentres dans la salle, tu as ton polo personal trainer, les gens vont se ruer chez toi et vont te dire « Ouais, écoute, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching, moi, je veux du coaching. » Ça ne marche pas comme ça. C'est comme tu le disais tout à l'heure, Andy, si tu ne crées pas cette relation de confiance entre la personne en face de toi et toi, ça n'ira pas. Tu ne pourras pas signer. Personne ne va signer avec quelqu'un qui ne connaît pas. Tu fais le test, hein, tu vas aux Champs-Élysées, il y a des milliers de personnes et tu demandes à tout le monde s'il ne veut pas du coaching avec toi. Si tu arrives à trouver au moins une personne, chapeau. Hein.
Comment vous faites pour que vos coachs aient des bilans? Enfin, je ne sais pas si votre funnel, c'est d'avoir des bilans où on les appelle comme on veut. Est-ce que vous avez des petits tips à nous partager par rapport à ça?
On a plusieurs moyens. Déjà, il y a les moyens directs, donc les moyens externes, donc tout ce qui est flyer et tout. Tout ce qui est narrowcasting, donc les écrans, tu sais, en salle et tout. Et le site internet, donc à travers ça, le client il peut t'envoyer un mail, donc le coach il reçoit directement un mail sur chez lui, quoi. Et après on a le moyen direct pour nous, c'est vraiment 80% ou 80 même 90% du job, et c'est ça qui va faire que tu vas pérenniser ton activité surtout. Juste la petite parenthèse d'ailleurs, aujourd'hui ça fait 3 ans ou 4 ans qu'ils sont chez nous, et à chaque fois régulièrement on entend des échos comme quoi ils se plaignent par exemple qu'il n'y a pas assez de flyers, tu vois, alors que ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont dans le circuit. Mais ce n'est pas normal pour nous, tu vois. Parce que non, dès les premiers mois déjà, tu t'es fait une communauté, tu n'as pas besoin de faire ça. Et pourquoi? Parce que le coach, en fait, une fois qu'il commence à coacher énormément, il ne s'occupe plus des autres gens. Il ne s'occupe que des personnes qui coachent, tu vois.
Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, parce que normalement, 3-4 ans, dans une salle, tu connais les prénoms limite de tout le monde.
Et par rapport à ça, donc je rebondis, je réponds à ta question. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Faut connaître la personne. Donc, apprendre à connaître les gens. Si tu vas juste, tu dis bonjour aux gens tous les jours, ça va servir à rien. Tu vois, on prend toujours l'exemple du voisin. Tu habites dans un immeuble, tu croises tes voisins tous les jours parce que tu viens d'aménager, c'est bien beau. Tu les connais visuellement. Mais si tu fais jamais l'effort de demander le prénom ou bien de lui dire viens boire un verre ou on pourrait aller faire un truc, tu vas jamais apprendre à connaître. Donc commencer déjà à prendre des prénoms comme on le fait dans le fitness, tu vois. Commencer à comprendre pourquoi il est venu à la salle, tu vois. Qu'est-ce qui a fait qu'il est venu, il a poussé la porte de la salle, tu vois. Après on n'est pas dans un truc, on n'aime pas en fait avoir des tips toutes prêtes pour les coachs. On veut en fait que Andy, quand il vient dans la salle, ça reste Andy, Sid, ça reste Sid. Chacun personnalise. Après, on a tous la même route, mais pas forcément les mêmes tips, quoi. Du coup, après, en ressortir de ta journée de travail, tu vas juste te poser la question, tu vas te dire, est-ce que j'ai accompagné des gens et j'ai amené vraiment une plus-value à un certain nombre de personnes. Et plus tu sais que tu as impacté psychologiquement des personnes, dans le sens positif, plus tu sais que tu es dans la réussite. Si tu rentres chez toi et tu sais que tu as juste parlé avec des gens, ça ne va servir à rien. Est-ce que je les ai impactés en lui expliquant que ça ne servait à rien de venir à la salle et dire je vais perdre du poids, tu vois, plutôt te lui faire comprendre qu'il doit prendre de la masse musculaire et comment il doit faire, tu vois. C'est des choses comme ça qui va ramener l'expertise, mais tout en restant humain. Ça, on insiste vraiment énormément parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont hyper techniques. On leur demande de vulgariser au maximum. Ils sont beaucoup dans « est-ce que je dois vous voyez les gens dans la salle ? Est-ce que je dois parler ?» Ben non, c'est des personnes lambda. Tu vas, tu discutes avec eux. Si tu as une personne qui a un langage un peu plus soutenu, adapte-toi à elle, mais tu dois rester cool. C'est toujours plus facile en restant naturel. C'est même pas vulgariser ou bien… C'est rester naturel. Tu n'inventes pas une vie. Tu sais, tu as déjà vu les coachs qui veulent être tellement techniques que carrément, quand ils parlent avec toi, tu as l'impression que c'est une autre personne. Ils ne parlent pas comme quand ils parlent d'habitude avec toi. Ça ils se transforment, quoi. Donc c'est un peu ce qu'on leur demande, quoi. Et ça, on a un cursus complet. Nous, je sais que ça se fait pas beaucoup chez les collègues dans les Basic Fit. On a un cursus de formation pour la prospection. C'est-à-dire que nous, une personne, quand elle rentre chez Staff Training, on lui apprend tout. on lui apprend en fait de son entrée en salle jusqu'à la sortie de la salle, qu'est-ce qu'il doit faire. Il sait pas, il a pas d'inconnu en fait. Tu vois, on va très loin. Genre, tu rentres dans la salle, tu enlèves ton t-shirt, tu mets ton polo personal trainer, tu fais telle et telle chose, tu fais toutes les étapes, elles sont définies. Sur le plateau, il a un registre de plein de choses qu'il doit faire, pas seulement parler. Il y a énormément de trucs. On peut corriger, on peut améliorer des exercices. Il y a vraiment plein de trucs à amener sur le plateau. Et avec des temps définis et plein de tips. Mais voilà quoi.
Excellent. Et comme vous l'avez dit, fort justement, le business du personal trainer en one-to-one, c'est si tu as le bon pricing, parce que si tu as un pricing à 20 euros, c'est un peu plus compliqué, mais si tu valorises en fait ton expertise, tu as besoin de 15-20 clients. Et comme vous l'avez dit, fort justement, au lieu d'aller chercher après tout le temps des nouveaux clients, se concentrer sur la fidélisation, est-ce que vous pouvez tous les deux me partager voilà, même chose, des conseils, des petites choses pour améliorer le taux de rétention avec mes clients.
Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ouais. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que maintenant, ça fait 6 mois que j'ai une personne. Qu'est-ce que je sais d'elle? Au bout d'un moment, je me pose et je me dis, qu'est-ce que je sais d'elle? Est-ce que je sais si elle est mariée? Est-ce que je sais si elle a des enfants? Est-ce que je connais son activité professionnelle? Et je te promets que c'est des trucs qui sont tellement bêtes. Mais je me suis posé une fois avec un coach et je lui ai demandé. Il m'a dit, ouais, j'ai peut-être une cliente là qui va arrêter. Et je lui dis, puis moi, je me doutais, tu vois, et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, tu te rends compte, 6 mois à raison d'une séance par semaine avec la personne et tu sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Tu vois, il y a un problème quelque part. Donc, je pense, à mon avis, hein, vraiment, hein, si tu crées pas, comme je le disais tout à l'heure, si tu crées pas ce lien-là avec ton client, il partira, il va te sentir comme un étranger. Tu vois, tu quittes pas ton meilleur ami du jour au lendemain comme ça. Tu vois.
Et les techniques, c'est tout simplement, on le fait avec les coachs, on leur demande de faire des débriefs avec leurs clients. Toi, maintenant, quand ton client il vient, c'est en mode usine, tu sais, de 9h à 10h, j'ai un dit en coaching, tous les lundis. Donc, je te vois que de 9h à 10h, c'est le seul moment où on se parle. Pourquoi on ne prend pas un peu de temps après la séance, tu vois? Ou bien faire… quand on faisait du coaching, on faisait des bilans au début. C'est bien beau de faire des bilans au début, tu sais, pour vendre ton produit. Mais après, par la suite, il y en a, ils oublient de refaire le bilan, tu sais, au bout de 2-3 mois, tu vois? Et c'est à ce moment-là aussi que tu vas aller chercher. Peut-être qu'il y a des problématiques. Quand tu es posé tranquillement en dehors de la séance, peut-être qu'il va se dévoiler un peu plus ton client. Il va te dire et pose-lui la question. Un vrai feedback, tu vois. Quelles sont les choses que tu apprécies, qu'est-ce que tu apprécies un peu moins. Comme ça, on peut aussi travailler sur nous-mêmes. Parce que autant ma méthodologie est parfaite, peut-être que ça me fait avancer dans les résultats, mais il y a aussi ce côté, tu sais, ce sentiment d'appartenance qui est important qu'on lui transmette aussi, tu vois, qu'il se sente bien dans la salle. Si tu, le gars, en fait, la salle, elle est hyper grande et tu le fais travailler toujours que dans la partie fonctionnelle et il a besoin aussi de découvrir autre chose. Peut-être que c'est des choses anodines comme ça, quoi.
Et tu sais aussi sortir du cadre aussi que sportif. C'est-à-dire que des fois, tu es avec ton client, il te raconte sa journée, tu le coupes et tu lui dis « Ok, là, on va faire du développé couché. » Tu lui donnes le tempo. Tu l'as coupé. Il voulait te raconter quelque chose. Tu l'as coupé parce que tu n'as pas envie… Il y a des coachs qui sont comme ça, tu vois. Ils ne veulent pas s'immiscer dans la vie. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas. Pas ne pas t'immiscer dans la vie du client parce que on est aussi un petit peu psychologue, tu vois, dans notre métier, hein, les gens se livrent énormément à nous. Il y a certaines personnes, ils nous le disent, hein, tu m'as sauvé la vie, tu vois. Bon, après, peut-être que c'est des mots un petit peu forts, tu vois, mais tu as changé ma vie, des choses comme ça. C'est puissant, tu vois, c'est énorme. Je vais te raconter une petite anecdote. En 2021, j'étais à Londres pour le Nouvel An. Le 31 décembre, je reçois un message. Je reçois un message et c'est une ancienne cliente qui m'écrit et qui me dit « Je te remercie pour tout. Je te souhaite une belle année. Tu as changé ma vie grâce à toi. J'ai pris confiance en moi et je te remercierai jamais assez pour ça. » Donc, c'était une dame qui devait avoir une cinquantaine d'années, hein. Tu sais combien de fois je l'ai coachée, cette dame-là?
Non.
0 fois. Je ne l'ai jamais coachée. Je l'ai signée Malheureusement, elle a eu une fracture de la cheville. Donc, je restais en contact avec elle. Je lui demandais comment ça allait. Elle me disait, excuse-moi, je peux pas venir m'entraîner. Tout. Je la rassurais. Je lui disais, écoute, c'est pas grave. T'inquiète pas, quand tu reviendras, tu m'appelles, on casera une séance. Si tu veux, tu viens juste, on boit un café, tu vois, on discute ensemble et tout. Et on échangeait comme ça, tu vois, de temps en temps, on discutait. Et elle m'a dit, tu as réussi à me faire prendre confiance en moi et tout, alors que je ne l'ai jamais coaché. Tu te rends compte? Comment une personne qu'on suit une heure par semaine, à qui on envoie des programmes et tout, on ne peut pas la fidéliser? Alors qu'on, tu vois, là, c'est une forme de fidélisation, parce que ça faisait 6 mois, je ne l'avais pas vue. Elle a quand même pensé à moi, elle m'a envoyé un message à Nouvel An, tu vois. C'est des choses qui sont puissantes. Et c'est ça, normalement, qu'en tant que coach, on doit rechercher.
C'est là. Ouais, mais là, tu touches du doigt, en fait, tu touches du doigt le fait que un coach aujourd'hui, alors, moi, le coaching que j'ai connu il y a 20 ans et le coaching de maintenant, ce n'est plus du tout la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un simple personal trainer n'est plus un prescripteur d'exercice. Il doit être bien plus que ça. Et comme vous le dites tous les deux, c'est clair que si tu t'arrêtes simplement à l'aspect j'entraîne Janine le mardi de 18h à 19h, pour moi, tu vas être vite dépassé. Alors, il y a encore le marché du coaching où là, on vend encore à l'heure, on vend encore des trucs comme ça. Mais bientôt, ce sera terminé, tout ça. Tu vas demander à ChatGPT, tu auras ton programme d'entraînement, il n'y aura plus besoin de coach. Donc, si tu ne vas pas plus loin dans cette démarche de c'est quoi un coach réellement, effectivement, t'es voué à disparaître. Et comme vous le dites, c'est effectivement pour qu'il y ait un changement, parce qu'aujourd'hui, on vend un résultat, on vend une transformation. Ce n'est pas parce que tu vas lui faire des burpees et des squats que la finalité, elle va réussir. Et c'est là où on rentre dans, pour moi, un autre métier. C'est la continuité de ce que l'on fait, mais moi, ça m'a ouvert les yeux et du coup, des champs des possibles énormes sur ce métier-là qui est, je pense, sous-exploité aujourd'hui.
Mais parce qu'on a le syndrome de l'imposteur aussi, c'est par rapport à ça, parce qu'on ne se sent pas légitime et on ne sent pas la puissance en fait, qu'on a à travers nos coachings. Nous, on vend des prestations. Hein. Nous, quand on vend des packs de 6 mois et 12 mois, c'est une prestation. Ce n'est pas juste un coaching, c'est hebdomadaire en fait, le tarif qu'ils payent, c'est pour une semaine d'accompagnement. Il y a une question qu'on pose simplement à nos coachs pour qu'ils prennent conscience de ça, c'est ton client, quand il a signé avec toi, est-ce qu'il t'a demandé ton diplôme? Il n'y a jamais aucun coach qui nous a fait un retour comme quoi il y a un client qui lui a demandé son diplôme. Tu vois, il peut avoir un cursus Kettlebell, TRX, je ne sais pas quoi, le client il s'en fout, il prend l'humain avant tout. Il signe avec un humain. Il ne sait même pas, il n'a jamais essayé avec toi parce que chez nous, il n'y a pas de séance d'essai. Il n'a même pas essayé, il n'a même pas goûté au produit. Donc, il a signé avec l'humain. Donc, reste humain parce qu'il a signé pour ça. Tu vois ? Mm-hmm. C'est, en plus, ça me paraît tellement logique. Tu vois ? La personne, elle a signé parce qu'elle a un feeling avec nous. Donc, restons sur cet aspect feeling. C'est ça qui l'a fait signer. Et en fait, on se trompe parce qu'il a signé pour le feeling qu'il a avec moi et je vais perdre en fait cette relation dans le temps parce que je vais me concentrer trop sur le technique. Tu vois?
Ah oui, non, mais tout à fait. Et comment on fait du coup, comment vous avez fait la bascule être trainer, personal trainer?
C'est obligatoire. C'est... Ouais. Comment on est passé de personal trainer, on a aspiré à devenir e-trainer?
Ouais.
C'est venu de moi parce que c'était une évidence. Donc, et c'était grâce aussi au partenaire Basicfit, dont j'avais un partenaire manager. Donc, c'est celui qui s'occupe de tout le secteur régional et tout. Et en fait, j'avais pour projet de m'associer avec mon e-trainer parce que je marchais super bien. Je t'ai dit, j'avais entre 30 et 35 coachings. C'était usine, hein. Tu vois à peu près le rythme que ça, c'est, hein, 30-35 coachings. Je commençais même à avoir une overdose du coaching, quoi. Et je voulais m'associer avec le e-trainer. Et le e-trainer qui était, je te dis, dans le podcast, mais il était absent, quoi. Et du coup, il me disait, pourquoi tu ne te lances pas tout seul? Tu vois, pourquoi t'associer avec quelqu'un? Et c'était une grande chance. Tu sais que dans notre création d'entreprise avec cette personne, on a eu en fait des barrages sur tout, que ce soit création de compte, la banque elle a refusé, pour les statuts c'était catastrophique, tu vois. Donc en fait ça avançait pas. Et en fait un jour j'étais en salle sans le savoir, c'est devenu peut-être une évidence aussi pour lui, il s'est retiré. C'est à son honneur, tu vois, il s'est retiré. Je ne fais pas trop de trucs parce que c'est quand même lui qui m'a donné ma chance le premier jour. présenté avec lui, mais voilà, il s'est retiré, il a démissionné, il m'en avait même pas parlé avant, il a envoyé un pavé par mail à tout le monde, et du coup, ben, je me suis retrouvé entraîneur sur Strasbourg, qui est assez éloigné de où j'habite, c'est à peu près une heure de distance, une autre salle à Colmar, qui est à 30 minutes, et je me voyais pas, en fait, je voyais le potentiel. Maintenant, au-delà des clients, comme je te disais avant, dans les salles, je voyais le potentiel, en fait, de la croissance Basic Fit. On était au tout début, c'était un bébé, mais je voyais à quel rythme ils ouvraient les salles et le potentiel dans chaque salle. Et je me disais, mais on est débile, le marché, il est vide. J'ai jamais vu ça, tu sais, c'est des trucs, tu voyais dans, tu les ai dans des livres ou tu voyais à la télé. Et je me disais, mais les gens, ils sont aveugles, ils voient pas ce qui se passe, tu vois. Et je nous voyais, en fait, où on est aujourd'hui. Mmh. Mais je me voyais pas tout seul. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est pas pour. Mais je sais que moi je suis beaucoup plus terrain. Tu vois ? J'aime bien être sur le terrain au contact. J'aime pas les réunions. Même là, rester assis, tu sais, pendant des heures, je supporte pas ça. Quand on fait des réunions, c'est Sid qui gère et tout. Tu vois ? Et je l'ai. Là, je l'ai pas lâché. Hein. Je l'ai appelé. Je l'ai pas lâché. Je lui ai dit, on s'en fout. Tu vois ? Et c'est vrai que c'est galère. Parce que tu passes le trainer, les gens, ils pensent, tu sais, ils te font le calcul, ils regardent le nombre de coachs que tu as et ils en déduisent que tu gagnes tant et tant par mois. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Parce que tu as investi des sous déjà au début, tu vois. Faut que tu te rembourses déjà ce que tu as sorti. Et tous les mois, tu as énormément de dépenses parce qu'on passe dans un autre statut d'auto-entrepreneur. Tu passes en entreprise, tu vois. Du coup, on est SAS aujourd'hui.
Le patron, c'est toujours le gros con hein, dans l'histoire.
Hein. ouais, tu sais, quand on demande des réductions de loyer, des choses comme ça, tu vois, ça te fait mal aux fesses parce que toi, tu sens rien de l'entreprise pour toi. Et le coach, il veut gagner. Parce que quand on était coach, on gagnait beaucoup plus. Pas se voile la face hein, que quand on était entraîneur, tu vois. Mais nous, on a un projet. On a un projet de croissance. On sait très bien que la croissance, elle ne te permet pas aussi d'avoir des bénéfices dingues. Pourquoi ? Parce que plus tu crois, ce que tu gagnes, en fait, tu vas le réinvestir et ainsi de suite, tu vois. On est dans cette optique, nous, parce qu'on n'est pas encore à la fin du projet, tu vois. On stabilisera une fois qu'on aura toutes les branches sur notre arme, quoi.
Alors, si je veux me mettre head trainer, c'est quoi les gros freins que vous avez eus ou les conseils que vous pourriez me donner ?
Le gros frein qu'on a, c'est être stratégique, c'est-à-dire nous, on s'est trompé. On a fait les choses à l'envers, dans le sens où on n'avait pas encore créé nos process, d'accord ? On n'avait pas une offre extensible et on était sur une zone de chalandise trop grande.
Vous avez commencé par combien de clubs au début ? Vous avez tout de suite commencé ?
Heureusement, on n'en avait que deux.
Ok.
On avait deux clubs.
Ouais. Juste par rapport à ça, si tu veux, au début, on avait les deux clubs. Tu vois, donc il y avait Guy Spolsheim et puis on avait Colmar. Et en tant que personal trainer à Guy Spolsheim, tu vois, il y avait un personal trainer, ça n'allait pas. Du coup, il nuisait à l'image. On a été obligé de l'arrêter. Donc tout à l'heure, quand il disait l'argent qu'on a mis de notre poche, ben, le loyer, il faut continuer à le payer de la salle. Et le problème, c'est que l'Alsace, c'était un désert. Waouh, au niveau des coachs, c'était incroyable. Hein, tu ne trouvais pas de coach.
Okay.
Et parallèlement à ça, ce qui était encore plus embêtant pour nous, c'est qu'à Colmar, il y avait grave de la demande au niveau du coaching. On avait énormément de demandes au niveau du coaching. Donc, nous, on était embêtés. Donc, on a commencé à faire des campagnes de recrutement et tout. Et ça marchait pas. Les gens venaient pas, ils nous croyaient pas. Des fois, je te jure qu'on rencontrait des gens, on leur disait, il y a des clients, ils sont là, ils t'attendent seulement. Les gens ne croyaient pas, ils nous prenaient pour des fous. Et tu sais ce qui nous a sauvés à un moment donné ? Ça va être bizarre que je dise ça, hein. C'est le Covid. Parce qu'on est arrivé à un moment donné où Farid était full, moi j'étais full, et on avait la coach qui était full. Et elle nous harcelait tous les jours. Elle nous demandait, Clémence, elle nous appelait, elle nous disait, c'est quand vous voulez, les gars, vous ramenez quelqu'un. Moi, j'ai plus de place dans mon planning. Et les gens, quand on leur disait, écoutez, il y a de la demande et tout, venez, n'ayez pas peur, il y aura du boulot. Ils avaient peur. Mais ça, en fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Farid, c'est la création des process. En fait, on a créé des process. On a créé, on aime à dire, sans prétention, on a créé une Formule 1. Et maintenant, quand on recrute des coachs, en fait, on forme des pilotes. Le produit, on l'a.
Mais, Mais au-delà, donc tu vois, quand ils te parlent par rapport à la croissance qu'on avait dans la salle, ça aussi, il y en a beaucoup, beaucoup de coachs ne comprennent pas. Aujourd'hui, quand on a trois coachs, par exemple, dans une salle, et les trois, en fait, ils sont au taquet, ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous, en fait, tu tues ton écosystème si tu ne continues pas à faire vivre tout ce qui est prospect autour. Tu vois, au-delà d'aller donner des conseils et tout, il faut gérer aussi, il faut que quelqu'un puisse gérer toutes les demandes des prospects. Si on a des nouveaux rendez-vous, il faut que quelqu'un puisse les prendre. Et quand tu arrives à un point où les coachs ont leur coaching et qu'il n'y a personne pour prendre des rendez-vous, au bout d'un moment, bah, tu commences à dire aux gens « Non, on ne prend plus de rendez-vous, on prend plus de rendez-vous. » Du coup, bah, tu éteins complètement ton écosystème. C'est pour ça les coachs, il faut qu'ils comprennent. Pour faire vivre l'écosystème, nous, ce qu'on fait, en général, on anticipe. Bon, ça, il commence à changer de mentalité dans certaines salles. Des fois, chez nous même, c'est difficile. Mais ils commencent à comprendre qu'il faut anticiper, chercher une autre personne pour qu'elle… elle continue à faire vivre cet écosystème et on continue à avancer. Tu vois, c'est des choses hyper compliquées. Par rapport à la Formule 1, c'est vrai qu'on a une Formule 1, Andy, je te le dis, en toute transparence.
Donc vous êtes Ferrari, Red Bull, vous êtes quelle équipe vous ?
Red Bull. Mais on est celle que tu veux. Mais le problème, je te promets, hein, c'est qu'elle est exploitée, et je le dis en face à tous les coachs, à 50% peut-être. Parce que les coachs, tu sais, au début, quand ils sont pleins d'enthousiasme et tout, ils sont à fond, ils respectent tout à la lettre. Parce qu'en fait, tu viens, c'est une page vierge quand tu sors du BPGEPS. Tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas prospecter, tu ne sais pas fidéliser. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. On apprend tout ce qui est technique, physio, anatomie, à peu près faire du coaching parce qu'on ne sait pas très, très poussé. Mais tout le reste, tu ne connais pas. Donc, tu vas appliquer à la lettre ce qu'on va te donner en formation. Mais plus le temps il va passer, moins tu vas faire les choses comme tu les as apprises. Tu vois, l'humain, il va revenir. Et aujourd'hui, je te dis, hein, de tous nos coachs, on a 37 en tout. Franchement, s'il y en a un qui a 50% de respect des process, c'est magnifique, tu vois.
Oui, oui, bah c'est que du plus après, c'est clair. Et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 100% de tous les processus pour réussir et commencer à gagner sa vie, ce qui est plutôt très positif. Des difficultés à recruter ?
Plus maintenant. De moins en moins.
Au début, on avait énormément de difficultés. Maintenant, on gagne en notoriété. Et ben il y a des coachs, ils nous suivent sur les réseaux, tu vois, et tout. Et aussi, ben tu sais, au bout d'un moment, quand tu veux faire quelque chose, ben tu vas, tu te renseignes et tout, tu vois. À l'époque, je voulais faire une formation, tu sais, pelleteuse. Je suis allé voir le gars sur l'appel, je lui demande combien de temps ça fait qu'il fait ce métier. Il me dit ça fait 8 ans. Je lui dis ok, je lui dis du coup c'est bien. Il me dit « Non, franchement, c'est de la merde, tu ne devrais pas faire ça. » Mais tu vois, je me suis dit « Mais pourquoi tu le fais ?» Et en fait, c'est exactement la même chose. Tu vois, comme en salle, tu connais, hein, tu sais, si tu as 3-4 coachs, ils se disent, si tu recrutes un cinquième, ils se disent « Mince, c'est une concurrence en plus. » Ils ne se disent pas « Ouais, c'est un collègue, il va nous aider à avoir de la visibilité et gagner en notoriété dans la salle et ainsi de suite. » Tu vois. Ils se disent il va nous piquer des clients. Alors que, tu vois, c'est un raisonnement qui est complètement faussé. Et des fois, ben, quand on a des personnes qui viennent se renseigner auprès de coachs, ben, les coachs leur disent, ouais, c'est délicat. OK, mais la personne qui est venue se renseigner, si elle lui demande ça fait combien de temps qu'elle est dans la salle, il y a des coachs, ça fait 4 ans maintenant qu'ils font ça. Mm-hmm. Ça fait 4 ans et tu fais que ça. Si ce n'était pas bien, pourquoi tu le fais encore ? Tu es indépendant. T'as rien, tu dois rien à personne. Vas-y, pars alors. Fais quelque chose d'autre où tu seras plus épanoui, tu vois. Tu fais pas autant entrepreneur pour ne pas être épanoui.
Mais c'est surtout le changement de jeu. Excuse-moi, Andy, c'est surtout le changement de stratégie en fait qu'on a fait maintenant. On va pas rentrer forcément à fond nous dans le cursus de recrutement. On est plus dans l'aspect formation. On va préférer maintenant former nos propres coachs plutôt que de recruter des coachs externes. Mmh.
Et on est oui, c'est plus facile de les formater à votre vision des choses que de prendre des personnes qui, soi-disant, sont des stars du coaching, mais n'ont jamais développé le coaching, quoi.
Exactement, ouais. Et puis, l'état d'esprit, tu vois, nous, on recrute beaucoup par rapport à ça. Et puis après, ben, tu vois, c'est pas parce qu'on a 10 stagiaires qu'il y aura 10 coachs forcément en plus dans l'équipe, tu vois. Au bout d'un moment, tu apprends à les connaître. Quand tu passes l'entretien, c'est un entretien, ça dure 1 heure. En 1 heure, le paraître, tu vois, tu peux paraître bien, tu peux paraître super Superman et compagnie. Mais après, pendant 6 mois, ta personnalité, elle ressortira, c'est sûr. 6 mois ou 10 mois, hein, CQP ou BP. Donc là aussi, on reste sélectif pour garder justement cette qualité aussi dans les salles. Ben, tu vois, ça nous arrive d'arrêter des stagiaires avant la fin de leur cursus. Hein.
Ok. Mmh.
Parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, ça ne correspond pas à notre état d'esprit. Et puis, quand tu prends un apprenti et qu'il est salarié et que tu lui donnes des tâches et qu'il les a, et qu'il les fait pas, ben demain, quand il va être indépendant, il va venir et il va glander toute la journée. Et après, il va te dire « ça ne marche pas ». Donc, tu n'es pas ton image. C'est toi qui lui as donné le bâton pour te battre. Donc, autant arrêter tout de suite. Regarde quelque chose d'autre. Fais quelque chose d'autre.
Il y a un truc que vous avez dit, et je pense que ça paraît contre-intuitif, mais je le dis souvent aux personal trainers ou aux patrons de club que j'accompagne pour lancer le coaching dans leur club, c'est que plus il y a de coach, plus il va y avoir de business, quoi. Et souvent, on se dit, et ça paraît logique, oh bah ouais, mais, ou je me souviens qu'une fois, j'étais tout seul et je me dis, waouh, mais j'ai 2500 membres pour moi tout seul. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de développer un business que si déjà il y avait déjà trois coachs, quoi. Parce qu'une nouvelle fois, le coaching amène le coaching. Plus les gens verront des membres avec un coach, plus ils auront envie, entre guillemets, ça paraîtra naturel, quoi. Et ça, j'ai vraiment compris quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Mais ouais, faut vraiment pas avoir peur de vos confrères, parce que il y a encore beaucoup de business et c'est encore très très sous-exploité chez nous en France, quoi.
Mais ça, c'est parce que tu as fait une vraie analyse, mais il suffit d'analyser, c'est ce que je te disais avant. Il y a la plupart des coachs, ils ont la tête ils regardent leurs pieds, quoi, tu vois, ils avancent en regardant leurs pieds et il suffit juste d'observer. On appelle ça la preuve sociale et c'est aussi on aime bien le mimétisme, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une salle de sport, si la normalité, la majorité des personnes s'entraînent toutes seules, c'est normal que pour tous les nouveaux, hein, ben, ça va être normal aussi de s'entraîner tout seul. Mais si à chaque fois que tu rentres dans la salle, tu vois tout plein de monde en train de se faire coacher, bon, la normalité pour toi, quand tu seras en difficulté, tu lèves la tête, tu vois que la personne, elle est en train de se faire coacher à droite, à gauche, en face de toi, tu vois, tu les entends, tu les vois. Au bout d'un moment, ça devient une évidence parce que tu vas te dire, il n'est pas plus débile que moi, donc je vais y aller, je vais me lancer. Tu vois, c'est humain. Mais c'est sûr que si le coach est tout seul dans la salle, 20 heures dans la salle, et la salle, elle est ouverte presque 100 heures dans la semaine, il n'y a personne qui va le calculer. Hein, parce que, en plus, tu le verras presque. Tu t'habitueras, en fait, à voir toujours les mêmes personnes, tu sais, parce qu'en général, on vient toujours dans les mêmes créneaux. Si je viens de 9h à 10h, je vois toujours le même coach, je le vois toujours coacher la même personne. Donc, je verrai juste une personne se faire coacher. Tu vois, il faut aussi analyser ça.
Mmh. Et vous avez mis combien… Là, aujourd'hui, vous êtes à combien de clubs, combien de personnel trainer et vous avez mis combien de temps pour vous créer ce business-là?
On a commencé en 2020 et on est aujourd'hui, actuellement, on est 37 en tout sur 10 clubs.
Excellent, excellent. C'est hyper inspirant. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez une vision, vous voulez aller où avec ce business?
Ben, le prochain objectif, c'est d'avoir tout. C'est-à-dire, le prochain objectif, c'est la formation. Mais vraiment, aller plus loin dans la formation. C'est-à-dire que, pareil, on a créé des cursus, tous les process et tout, concernant tout ce qui est l'aspect basic fit suivi des coachs. Comme je t'ai dit, de leur entrée en salle jusqu'à la sortie et même après, ce qui se passe à la maison, le suivi et tout. Et on a créé un livret de formation. On a une formation pour quand on prend les stagiaires, on a une formation, on a la directrice de formation, c'est notre plus ancienne coach. Elle est même plus ancienne que Sid chez Staff Training. Donc Sid, il a commencé, elle était déjà dans le
Elle a fait la formation en même temps que nous, hein, parce qu'on a fait la formation la même année, Farid et moi, et Clément était aussi avec nous en formation.
Okay. Ouais, donc c'était une coach à succès, c'est elle qui supervise tout ça. Voilà. Et voilà quoi. Donc le but, c'est de s'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que on peut pas s'étendre. Et la vision, du coup, c'est d'avoir l'aspect formation, en plus de ce qu'on fait dans le business avec Basic Fit. On a une formule maintenant, heureusement, qui est extensible, d'accord ? Elle est scalable, comme on dit. Et du coup, hein, ben, aller chercher, mais gratter par rapport aux régions où on est. Nous, on n'est pas sur la stratégie, comme il y a certains collègues, par exemple. Ils vont aller directement sur Paris, tu sais, les bassins où il y a une grosse densité de population. Nous, en fait, on veut garder ce côté humain. Si tu vas à Bordeaux et à Paris alors que tu habites très loin, tu sais très bien que tu vas pas pouvoir être chaque semaine auprès des coachs, même si c'est une visio, c'est pas la même chose que l'aspect physique, tu vois. T'as besoin, nous on a besoin d'aller boire un café avec l'un ou l'autre, d'aller manger, tu vois. C'est super important qu'on garde ce lien.
Vous avez un nombre de coachs que vous aimeriez avoir?
Ça. On a un nombre parce qu'après, il y a l'aspect business qui prend le dessus. On a un nombre de coachs par rapport à la taille, on sait qu'est-ce qu'on va payer par rapport à la taille de la salle. Donc, on sait combien on doit avoir de coachs dans la salle.
Yes, j'en ai interviewé plusieurs head trainers. Vous fonctionnez, enfin, si vous voulez en parler, c'est un système, même chose, de mensuel, je suppose. Est-ce qu'il y a des fees au début, un droit d'entrée, des choses comme ça? Comment est-ce que vous voulez en parler de ça?
Pas du tout, bien au contraire. Nous, en fait, on facilite l'entrée des coachs au sein de SAF Training. Par contre, ils signent. Là, actuellement, on est certifié à la DRIT. Donc, on est au premier échelon de la formation. Ce qui fait que là, en fait, ça les aide fiscalement aussi. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'ils signent un contrat d'un an.
OK.
Contrat d'un an. Et en fait, nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent
les contributions.
À la formation et à l'accompagnement. C'est-à-dire que tous les coachs en fait, qui sont chez SAF Training, coach ou stagiaire, on fait des formations régulières, tu vois. Et on fait même des fois intervenir des coachs à nous, même souvent, pour des formations. Ils ont accès à tout. Il n'y a pas longtemps, on a eu une intervention d'un coach online à succès dans le Haut-Rhin, Roy. Et c'est nous qui nous sommes débrouillés pour qu'ils viennent, tu vois. Et ils ont accès à tout ça. Ils ont accès, on a eu une formation une fois avec notre comptable, ils ont accès à ça. Donc nous, vraiment, ils commencent tranquillement. Ils commencent pour te donner les chiffres, hein, 50 euros. Le deuxième mois, 100 euros. Le troisième mois, 240, 440, 640.
Et c'est pareil. Sur mon site, juste petite parenthèse. En fait, ça sert à rien en fait de leur mettre, parce que je sais qu'il y en a, ils font payer des droits d'entrée, il y en a, ils font payer des trucs parce que tu vas leur donner, mais c'est un risque à prendre, tu vois. Tu es obligé de les former pour qu'ils commencent bien. Il y en a, je sais, ils vont leur donner le minimum et les laisser commencer. Et après seulement, ils les font. Une fois qu'ils ont bien payé, hein, ben, ils leur donnent la suite, tu vois. Mais nous, on n'est pas dans cette optique. On garde cet aspect humain. On se dit qu'ils vont être fidèles parce qu'ils vont se sentir bien dans le club où ils sont. Plutôt que dans l'aspect financier, nous, on y est gagnant parce qu'ils vont nous faire vivre l'écosystème au-delà de l'aspect financier. On est aussi dans cette perspective de croissance. Il ne faut pas être axé que sur le chiffre, tu vois, sur le financier, sinon eh ben, c'est le début de la fin, quoi.
Mais en fait, notre système, tu vois, ceux qui font payer des droits d'entrée, des fois, je me dis qu'ils ont pas tort. Parce que, tu vois, dans notre système aussi, il y a des limites. Parce que quand tu dis à un coach… tu vois, souvent, les fins de formation, c'est juin, juillet. Après, il y a le mois d'août, il y a les vacances. Donc, il commence à 50 euros au mois d'août, il ne va pas venir en salle. Pourtant, cette année, tu vois, au mois d'août, on a beaucoup de coachs qui ont plus signé au mois d'août qu'au mois de septembre. Tu vois, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de demandes. Mais il y en a certains qui commencent au mois d'août et qui prennent 3 semaines de vacances parce qu'ils ne payent que 50 euros. Donc, tu vois, des fois, ça prête aussi à réflexion et on se dit, est-ce qu'on ne leur met pas un petit peu plus une épée d'Amoclès sur les premiers mois, comme ça, ils charbonnent, ils se font leur clientèle et après, on redescend et on y va calmement et puis, ils auront ce qu'ils ont semé, tu vois. Donc, ça prête toujours à réflexion. Mais pour l'instant, on est sur ce système qui fonctionne bien, qui satisfait le coach et qui nous satisfait nous aussi.
Ouais, après l'idée, je pense qu'il y a plusieurs modèles. Après, voilà, il faut trouver un modèle qui vous corresponde et qui correspond aussi au coach. Ouais, exactement.
Après, ça serait contraire à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu vois, rester sur l'humain et ainsi de suite. Parce que tu viens et tu mets la pression directement au coach. Tu lui fais payer 1000 balles ou 1500 balles.
Oui, mais en soi, après, oui, alors, bon, des chiffres comme ça, mais c'est vrai que ce que oublient les coachs qui sont dans un basic fit, c'est que vous avez aussi un gros loyer à devoir à Basic Fit aussi. Enfin, voilà, il y a aussi le revers du truc, quoi. Mais c'est à un moment donné, c'est un business model.
Avec le temps, si tu veux, maintenant, autant au début, c'était très compliqué par le recrutement et tout, parce que il n'y avait pas beaucoup, de coachs qui postulaient. Après, on n'a pas fait beaucoup de campagnes de recrutement. Hein. Là, actuellement, on en fait une pour Strasbourg, tu vois. Mais À l'époque, on n'en faisait pas tellement. Hein. Je crois qu'on a fait 2 ou 3 campagnes en 3 ans de recrutement. Tu vois. Mais par contre, les coachs, quand ils signent, généralement, ils restent. Il y a très peu de coachs qui ne sont pas restés au moins 6 mois, 1 an. Et généralement, quand ils ne restent pas, c'est tout à l'heure, il parlait de plan A, Farid, c'est qu'ils ont un plan B. Et tu sais, quand ils partent en vacances le premier mois, le deuxième mois, ils ne sont pas très présents parce qu'ils se rendent compte qu'en auto-entrepreneur, tu choisis tes heures, donc tu préfères rester un peu plus à la maison, profiter pour aller courir, pour aller faire ci, pour aller faire ça, tu vois. Le troisième mois, d'un coup, il y a 200 euros, tu te dis, bon, allez, je vais commencer à aller en salle. Mais le premier mois, c'est ton premier mois vraiment réel où les gens vont t'avoir. Et d'un coup, tu as le quatrième mois où c'est 440 euros. 440 euros, ça commence à être un peu plus chaud si tu n'as pas assez de revenus, tu vois. Donc là, tu commences à te dire, je vais aller faire un petit peu plus de fitness, comme ça, au moins, je gagne assez bien ma vie. Mais du coup, si tu fais plus de fitness, tu es moins présent en salle. Si tu es moins présent en salle, tu ne développeras pas ton business. Et il rentre dans un engrenage en fait négatif. Et après, c'est le début de la fin, quoi. Donc, nous,
surtout que 600 ou 700, ça dépend, ou à peu près, au bout de 3-4 clients, c'est bon, quoi. Tu vois, tu as déjà rentabilisé ton loyer.
On n'a jamais compris. Excuse-moi, on n'a jamais compris ça. C'est mathématique, hein, et c'est factuel. Il suffit de prendre les chiffres. Nous, actuellement, nos prestations, c'est 62,50 €. Donc, un suivi hebdomadaire, donc ça comprend une séance de coaching. Hein, donc, en présentiel, tu es 1 heure à peu près. Tu vois, c'est une séance. Après, c'est des fois un peu moins, des fois un tout petit peu plus. Mais en fitness, dans notre secteur, ils sont à peu près à 30 € de l'heure. Tu prends juste les chiffres. Si tu sais calculer, personne n'est assez débile pour pas comprendre que tu touches 2 fois plus. Et en plus, avec tous les avantages où tu peux gérer ton planning comme tu le souhaites, tu vois. Parce que si tu veux des clients le matin, il suffit de venir le matin.
Vu qu'ils viennent toujours le matin. T'es un peu moins fatigué parce que tu n'as pas un RPM et un body attack.
Ouais. Et ça, on ne l'a jamais compris. Tu vois. On ne l'a jamais compris. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il faut aussi prendre ça en considération. Andy, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y en a, en fait, ils veulent. Mais vouloir et pouvoir, ce n'est pas la même chose, tu vois. Et pour pouvoir, c'est ce qu'on disait avant, pour avoir un vrai projet, il faut se poser, c'est avec soi-même, ça ne sert à rien que tu te poses avec moi et que tu me dises « oui, je veux faire ça, je veux faire ça ». Il y en a, ils brassent beaucoup d'air, on leur dit des fois. Hein. Il y en a certains, on lui dit « toi, tu as envie de travailler dans les clims, pas dans le sport, tu vois, parce qu'ils brassent de l'air toute la journée. C'est comme les crocodiles, tu sais, des petites pattes et une grande bouche, tu vois, mais ils n'ont jamais rien fait. Et voilà, quoi. Peut-être que… à travers les questions, parce qu'il a oublié de le dire, Sid, mais on a un des dinosaures du fitness qui nous fait le privilège aussi d'intervenir le mois prochain, hein, monsieur Andy, hein. mais voilà, des fois, tu sais, quand tu entends des questions ou que tu dois redire des choses que tu as déjà dit, même qui semblent évidentes, tu vois, on est auto-entrepreneur à la base, on était auto-entrepreneur. Il y a une démarche personnelle à faire. Normalement, tu n'as pas besoin qu'on te donne la main toute la journée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, normalement.
Il y en a beaucoup qui sont. Et quand ils sont dans cet état d'esprit, on sait que limite, c'est pas des personnes qu'on va pouvoir garder dans un cursus long avec nous. Parce que on est sur 10 salles. C'est pas comme avant, tu sais, 2 salles, l'aspect humain, c'était plus facile. C'était hyper familial. Et c'est vrai que maintenant, il y a même des coachs, des fois, qui nous reprochent parce qu'on était encore plus présents avant. Mais on leur fait comprendre, gars, vous êtes auto-entrepreneur. On ne peut pas vous donner la main toute la journée. Vous avez tout ce qu'il faut faire. Vous savez, on vous l'a dit, noir sur blanc. Vous avez été formé dessus. Il suffit de faire ça, tu vois. Mais c'est comme ça. Après, on ne peut pas aussi trop perdre d'énergie. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer les gens.
C'est quoi aujourd'hui votre organisation personnelle? Qu'est-ce que vous gérez en tant que trainer? Comment vous organisez tous les deux?
Vas-y, Fred.
Donc, l'organisation, en fait, dès le début, moi, je sais faire tout ce qui est administratif, mais je n'aime pas trop faire tout ce qui est administratif, tu vois. Donc, il y a énormément de paperasse. Donc, tout ce qui est, parce qu'on fait énormément de réunions, on a une coordinatrice, on a une secrétaire, on a délégué tout ce qui est secrétariat à une personne qui a un cabinet de secrétariat, avec plusieurs secrétaires même, elle délègue aussi. Donc, Sid s'occupe de faire les démarches.
Le lien.
Vu qu'on a des apprentis et tout, on a des stagiaires. avec les coachs, tout ce qui est préparation des réunions, parce qu'on fait énormément de réunions, en général au moins une fois par mois, on a une réunion, ils préparent les PowerPoints, ils s'occupent aussi de tout ça, de l'aspect marketing, voilà, qui est toujours hyper compliqué. Aujourd'hui, on a une personne, c'est beaucoup plus qualitatif, donc il s'occupe de tout ce qui est contenu, il va gérer avec elle, quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire comme poste. Voilà, moi je vais m'occuper vraiment de tout ce qui est sur le terrain, c'est-à-dire et lui maintenant, vu qu'il a plein temps aussi chez sa training, il va aussi dans les salles. En fait, on se répartit les salles, on tourne dans les salles. Et comme je t'ai dit, on a du to-do list en fait nous. Nous, on a bien du to-do list. On a une to-do list en Drive, avec Sid. Et tous les matins, en fait, tu te lèves, tu regardes la to-do list. Donc si il sait qu'il y a un truc à faire, il va le mettre sur la to-do list. Moi, pareil, on a une to-do list commune. Et en fait, on va juste cocher ce qui a été fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça.
C'est marrant parce que c'est vrai que il y a des head trainers, c'est simplement ils payent un loyer, ils font rien de plus. Vous, on voit que c'est ça, ouais, ça, il y a de la structure, on sent un petit peu le côté professionnalisme et ça, je trouve ça vraiment vraiment cool. Ça vous prend combien de temps par semaine tous les deux votre business de head trainer?
Vaut mieux qu'on compte pas, hein.
On compte, ouais. Pas.
Ok. Ouais.
Vu qu'on est deux, c'est plus facile. Par exemple, là, ben, je suis un peu malade depuis hier, tu vois. Je suis pas au top de ma forme, mais ben, je peux me permettre de rester à la maison, de travailler un peu plus tout ce qui est bureautique et tout, préparer, parce que je travaille aussi, tu sais, sur la conception des formations. On essaye toujours d'améliorer. Les bilans, par exemple, qu'on fait pour les entretiens, on est à la version 25 ou 30, tu vois, tellement la modifier, on essaie toujours de peaufiner. Donc voilà, quand je suis pas là, ben lui il peut prendre la relève et ainsi de suite. De toute façon, on a un suivi à distance. Donc si je veux savoir si quelque chose n'a pas été fait, je vais sur la to-do list, c'est aussi simple que ça, quoi. Et on est complémentaires sur ça, hein. On travaille le samedi, dimanche, parce que tu sais, par exemple, on a des prestations qui rentrent tous les jours. On fait des séances d'introduction au coaching et nous en fait on s'engage à répondre aux clients assez rapidement. Donc, on est obligé, on a des drives aussi. Pour chaque salle, on a un drive. Je ne sais pas si tu vois le truc, tu vois, avec tous les coachs. Donc, c'est nous qui remplissons les drives pour avoir des statistiques aussi et tout. Donc, on travaille du lundi au dimanche et voilà, quoi.
Mais tu sais, on est amoureux de ce qu'on fait. Et tu sais ce qu'on dit en amour, quand on aime, on ne compte pas. Mais on est vraiment là-dedans. Mais…
Yes. Et du coup, travailler avec son frère, c'est comment? Parce que moi, j'aurais adoré avoir un business avec mon frère. Comment vous faites pour gérer ça? Ça paraît normal, logique, ça se fait naturellement, ou est-ce qu'il y a…
Ben écoute, faut pas qu'on fasse des réunions tous les jours, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, et très souvent on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais c'est ça qui fait la force du truc, parce que si on allait dans le même sens, c'est comme dans un couple, hein. Faut être un peu différent, sinon t'avances pas. On sait où on veut aller tous les deux, et des fois, ben c'est tendu les discussions, mais à la fin, ben on arrive toujours sur quelque chose de propre, et voilà, c'est très bien, quoi.
C'est là aussi où justement la fraternité ça aide, c'est-à-dire que peut-être si c'était pas mon frère, je l'aurais encastré dans un mur ou bien on serait plus ensemble, tu vois. mais en fait, étant frère, quand on était petit, on a aussi eu des conflits. Tu vois, ton frère restera ton frère, le sang restera le sang, tu vois. C'est pas pareil. Donc, on sait très bien, en plus, là, on a une vision à long terme. Donc, on sait très bien que tout ce qu'on dit, à chaud, il va me dire des choses, il va me faire des reproches. À chaud, je vais réagir et je vais être sanguin aussi, tu vois, peut-être. Mais ensuite, je vais prendre quand même tout ce qu'il m'a dit, je vais l'analyser, je vais faire mon mea culpa et je vais me dire, ouais, bon… Et pas tout à fait tort, ouais, je suis d'accord avec lui quand même, tu vois.
J'aime bien quand il va dans mon sens.
Et le lendemain, ben, on se revoit, tu vois, on se fait la bise et puis tu vois, c'est reparti. Mais sans ça, je pense que tu peux pas avancer non plus, sans le désaccord, sans le fait aussi. L'avantage aussi d'être frère, c'est qu'il y a une certaine franchise. Il n'y a pas de faux cul entre nous. J'ai quelque chose, j'ai envie de lui dire merde, je lui dis merde, tu vois. Tu vois, il m'a déjà raccroché au nez, je lui ai déjà raccroché au nez parce que ça nous saoulait la discussion. Mais ensuite, une demi-heure après, on se rappelle et on reprend le sujet, tu vois. C'est des choses qui sont possibles justement parce que on se connaît depuis 40 ans, du coup, comme c'est mon frère, tu vois. Ben ouais, ça aide énormément aussi à ce qu'on avance aussi bien. et que ce soit toujours périn, parce que il y a toujours aussi cette confiance entre nous. Confiance, c'est-à-dire que si demain Farid il va à une réunion sans moi, ben il sait que tout ce qu'il dira, je vais être d'accord, tu vois. Il y a pas de problème. Et inversement, lui aussi il sait que je prendrai la meilleure décision pour l'entreprise. Il y a pas d'égoïsme entre nous. Tu vois, c'est vraiment 50-50, surtout sur les décisions, sur le financier surtout. C'est tout le temps comme ça, 50-50.
Mais ça, par rapport à ça, cool. On a toujours été comme ça. Dès le début, on l'a toujours dit, et on en parle à chaque fois. Si on pouvait être dans l'ombre et que SAF Training fonctionnait, tu vois, on signerait avec les deux bras. Parce que tu peux aller regarder, hein, quand on fait des campagnes de publicité ou on fait des posts et tout, c'est très, très rare que tu vas trouver une image de nous. Parce que nous, en fait, notre réseau, il est vraiment dédié à nos coachs. On veut pas se mettre en avant nous, tu vois. On veut mettre en avant la marque et les coachs, tu vois. Au quotidien, on travaille pour eux. C'est en aucun cas, en fait, nous, on veut que notre notoriété à nous, tu vois. Ça nous intéresse pas. C'est pas ça l'objectif du tout.
Comment vous voyez le marché du coaching là, malgré les difficultés, l'inflation, les guerres, les machins, les trucs et tout. Comment vous voyez notre métier?
Moi, je le vois.
Ou dans le futur?
Actuellement, ouais, je pense pas.
Dans les mois et les années à venir, oui.
Bah, actuellement, ça va nous donner la réponse sur le futur. Moi, franchement, avec la différence par rapport à quand j'ai commencé, je ne vois pas énormément de différence. La seule différence que je vois, c'est qu'il y a plus de coachs. Oui, soit, tu vois. Mais ça ne change rien. Parce que pourquoi il y a beaucoup de renouvellement? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui rentrent sur le marché, parce que c'est un marché en pleine croissance encore, tu vois, parce qu'il y a des places à prendre. Mais il y a un énorme renouvellement à chaque fois, tu vois. Moi, je le vois à travers les salles Basic Fit, des collègues qui prennent des salles, qui vont lâcher cette salle, qui vont prendre une autre, tu vois, parce qu'il y a tellement de places, il y a tellement de structures qui sont encore vides où il y a du potentiel et tout. Donc, l'avenir, en fait, il est sur la qualité. C'est-à-dire qu'avoir des vrais process comme on a fait nous et développer ça. Mais si c'est juste pour aller combler des vides et venir faire du coaching, tu ne peux pas durer dans le temps. Donc, le marché, moi, pour moi, il est énorme, mais vraiment incroyable. Nous, on reçoit les cartes de Basic Fit à chaque fois. Je prends juste l'exemple de Basic Fit. Il y a les concurrents Fitness Park aussi qui développent énormément. Si tu voyais le nombre de salles où il n'y a personne, et en plus, des fois, c'est dans des bassins de population énormes, tu dis punaise, des fois on était en sueur, hein. Je dis ah, putain, franchement on devrait faire un truc, trouver un partenaire sur place comme ils font certains collègues, tu vois, et se lancer. Mais après, ben tu te calmes, tu te dis avec tout le temps déjà que je passe à faire ça localement, je vais pas encore me essayer de croître sur peu importe, hein, c'est frustrant que et en fait, ça nuit à l'image des coachs. Je pense que tu as connu ça au début. Et on nuit à l'image des coachs et du personal training avec le manque de qualité dans les salles de sport. Parce que nous, à chaque fois, on s'amuse. Tu sais, on a déjà fait tout le Nord. On a déjà fait tout le Sud, Lyon, Marseille, Bordeaux. On est déjà allé dans plein de salles et tout. Autre même que Basic Fit. Quand on voit que des coachs, ils donnent encore, tu sais, des PDF, des formats Excel. C'est parce qu'on va fouiner un peu, bien sûr, quand on va dans les salles. Quand on voit qu'il y a des coachs qui font encore des tarifications à 30 euros de l'heure, tu vois, comme tu le disais avant, et on sait que ce n'est pas des choses qui sont périn, tu vois. Donc,
Mais en tout cas, c'était bien cool. Merci de nous avoir partagé, de nous avoir ouvert les portes de votre business. S'il y a des coachs qui nous écoutent, qui sont dans votre région, qui sont intéressés pour rejoindre votre équipe, où est-ce qu'on peut les diriger?
Bah, soit sur les réseaux, SAF Training, donc vous me trouvez sur les réseaux, beaucoup sur Instagram, on est sur Facebook. Et par mail, c'est aussi simple que contact@saftraining.fr.
Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description, voilà. de l'épisode. Les gars, une dernière chose à rajouter, je vais vous laisser parce que j'ai vu que l'heure tournait. Farid, Sid, un dernier message pour les coachs là qui nous écoutent.
Ben, croyez en vous, Et surtout, kiffer un maximum parce que peu importe ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez lancer, que ce soit personal training ou le fitness, le maître mot, c'est au-delà du projet, ce que vous voulez faire et tout, c'est d'aimer ce que vous allez faire et ce que vous faites. C'est vraiment la chose la plus importante. Quand vous vous levez le matin, vous devez aimer ce que vous faites. Nous, c'est pour ça qu'on est là et qu'on est souriant. On aime partager toutes ces choses-là parce qu'on aime se lever le matin et entreprendre, quoi.
Sid, moi, c'est ce que je voulais dire. Du coup, je vais juste dire autre chose. Je vais dire aux coachs et aux futurs coachs, arrêtez de croire ce qu'on vous dit et faites-vous votre propre opinion. Allez à la source, renseignez-vous un petit peu plus, allez voir des coachs à succès, allez voir des anciens et faites-vous votre propre opinion. Parce que tout le monde ne vous souhaitera pas que du bonheur. Donc, faites-vous votre propre opinion. Ça, c'est la plus grande des richesses qu'on a. C'est que notre opinion, personne ne peut nous la prendre et on peut se la forger nous-mêmes.
Excellent. Bah, c'est un super mot de la fin. Écoutez toutes les semaines des interviews de personnes qui ont réussi. Je pense que ça, je reçois plein de messages sur le fait que ça inspire beaucoup la communauté. Donc c'est cool. Merci à tous les deux. C'était c'était super super cool. On s'est croisés, je crois, vous partiez au Fitex et on s'est croisés. Et du coup, voilà pourquoi on fait cette interview aujourd'hui ensemble. Donc merci les gars. C'était. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Vous êtes bien parti, donc on verra, on refera un épisode peut-être dans un an et demi pour voir un petit peu où vous en êtes. En tout cas, merci à tous. Pensez à leur mettre un 5 étoiles, un commentaire aussi aux deux frères. Et puis, nous, on se retrouve dans la semaine prochaine pour un nouvel interview. Merci Sid, merci Farid.
Merci Andy,
ciao, ciao. Salut.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.